Bien, bonjour à tous ceux qui viennent d'abord donc, d'un peu partout et je vous souhaite la bienvenue à cette formation thématique sur les nanotechnologies et leurs applications. Je remercie vraiment donc, sincèrement ceux qui sont venus de Limoges avec le temps qu'il faisait ce matin. Il y a eu certains qui ont eu quand même du mal à arriver. Donc ceux qui ont eu quand même quelques problèmes de voiture, il faudra donc le signaler pour qu'on puisse essayer de résoudre ce problème. Ensuite, il y a aussi donc, ceux qui sont venus de La Rochelle. Je dirais tout à l'heure que je vais vous donner quelques indications. Je commencerai par vous dire que ceux qui sont venus de l'extérieur, donc Madame Biet, qui est ici présente, Sabrina, levez-vous, pour que ceux qui ne vous connaissent pas, elle ira tout à l'heure pour résoudre votre problème d'hébergement. Enfin, il n'y a pas de problème, donc c'est tout simplement, donc tout est réglé. C'est de faire en sorte que ben, dès que vous aurez la possibilité de... Enfin, il faudrait d'abord donc, vous inscrire, donc cocher la liste de d'émargement, parce que cela vous permettra après de valider votre formation en crédit ou bien en ECTS ou bien en module, selon donc, les provenances, parce que aussi ceux qui sont de l'extérieur pourraient le faire, si je dis extérieur à Poitiers. Ensuite, vous avez la possibilité, elle ira chercher les clés, parce que ben, on va finir vers 21h, donc ce qui fait que ben, lorsque vous allez arriver en cité universitaire des cartes, tout sera fermé au niveau administratif. Donc il faudrait qu'elle aille tout à l'heure chercher votre clé d'hébergement, et puis lorsque vous allez arriver après le dîner sur le Futuroscope, donc vous aurez directement donc, vous allez coucher. Il n'y a pas de boîte de nuit donc le jeudi à Poitiers. Donc, alors, plus sérieusement, donc, maintenant concernant tout le monde, je dirais que c'est aussi une première. Hein, donc, nous avons 8 écoles doctorales accréditées au niveau du PRESS et nous avons 5 ED représentés sur 8. Ça, c'est une très bonne chose. Cela veut dire que c'est vraiment une formation transversale thématique qui ne cadre pas avec sa thèse. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, et donc je vous donnerai ces indications, parce qu'une formation thématique n'est pas le premier chapitre de thèse. Même ceux qui vont travailler sur les nanomatériaux, comme catalyseurs, par exemple, pour ceux qui sont en catalyse, ce n'est pas dans l'objectif de mettre ce chapitre en tête de votre mémoire de thèse. C'est tout simplement pour faire en sorte que chaque doctorant puisse acquérir une connaissance générale, scientifique, de haut niveau, pour faire en sorte qu'il devienne un bon citoyen pour demain. Donc on pourra aborder par exemple les nanotechnologies sur le plan de la cosmétique, de la peinture, de pas mal de choses. Bon, donc vous avez aussi, peut-être il y a certains qui sont un peu... ils ont envie d'avoir des chaussettes avec des nanotechnologies, des nanomatériaux, etc. Bien sûr, ça permet de détruire très facilement. C'est un bon antibactérien. Quand vous avez par exemple des nanomatériaux en argent, ben, une fois que vous avez fait une lessive, il y a 80% par exemple de ces nanomatériaux d'argent qui s'en vont donc dans les stations d'épuration. Ça pose un autre problème. Du coup, dans les stations d'épuration, donc ça peut tuer les bactéries. Donc, ça pose un autre problème de l'efficacité des stations d'épuration. Vous voyez donc ce petit exemple-là, par exemple, peut aussi vous donner un confort, mais aussi avoir des conséquences au niveau environnemental. Alors, je reviendrai encore sur le côté administratif. En fait, donc vous êtes inscrit par Internet. C'est une très bonne chose. En 2 jours, on avait eu 110 réponses. Ça a été une très, très bonne chose. C'est un bon succès. Et ça a facilité la tâche aussi donc, du secrétariat de l'école doctorale. Mais en même temps, ça vous donne aussi une certaine obligation. L'obligation de dire que j'ai cette responsabilité-là de venir participer à la formation thématique. Pour vous donner quelques chiffres, je dirais que vous êtes 110. Un local, c'est-à-dire un doctorant de Poitiers, cela coûte, la prise en charge, à raison de 100 euros et celui de l'extérieur, 250 euros. Si vous faites le calcul, ça fait 18 000 euros en deux jours. Qui paye ? C'est quelqu'un qui paye, ça dit c'est le contribuable. Vous, moi et d'autres. Ce qui veut dire que ça nous donne quand même certaines responsabilités. Et quand un doctorant me dit « Ah oui, je ne viens pas, ben, ce n'est pas moi qui paye ben, », c'est quelqu'un qui paye, donc moi je l'oblige à rembourser ses 100 euros ou ses 250 euros. Vous voyez ? Et c'est là que ça commence la responsabilité. En même temps, donc, vous avez des droits, vous avez aussi des obligations vis-à-vis de la société. Ça coûte 18 000 euros, enfin je ne sais pas s'il y a certains qui réalisent, en deux jours. Bon, il y a certains qui le font donc un peu plus cher, mais on a essayé de faire en sorte qu'on soit le plus économe possible. On a pris par exemple un bus pour réduire les frais de parking, enfin donc pas mal de choses derrière, parce que tout simplement on a essayé de faire en sorte que ça puisse économiser un peu d'argent. Donc je voudrais quand même que chacun comprenne pourquoi parfois, même si c'est un rôle que nous essayons de jouer en organisateur, que vous aussi, vous preniez cette responsabilité et de prendre cela en compte. Alors, vous avez eu aussi un document qu'on vous a distribué, excusez-moi, par exemple. Ce n'est pas grand-chose, c'est pour vous donner quand même de quoi écrire, puisque là, c'est tout simplement donc, une formation où vous allez... On vous demandera de détacher la dernière page, donc une évaluation, puisque c'est maintenant rentré dans les mœurs, de telle sorte que vous ayez à évaluer les enseignements que vous recevez pour faire en sorte que ça puisse s'améliorer. C'est dans ce but-là. Donc, j'ai retiré les questions-réponses du style « Est-ce que vous avez été très content ? Vous avez donc eu un confort ? La climatisation a été donc ceci ?» Non, ça, c'est donc tout simplement du superflu. Je n'ai laissé que ce qui est essentiel à la formation. Vous pouvez juger, tel intervenant a fait ceci, a été donc d'un bon niveau, j'ai appris quelque chose. Je donnerai par exemple un exemple, et puis j'en termine à ce niveau. L'année dernière, il y avait eu donc ce type de questions, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette formation, etc. Il y a certains qui auraient dit, bien sûr, donc je la comprends, ils viennent de droit, et puis ils me disent, ah oui, je ne connais pas la nanotechnologie, on aurait dû nous faire un cours de nanotechnologie. Je dirais bon, donc, la semaine dernière, si vous étiez parti au cinéma, on n'aurait pas fait donc, un film spécial pour vous avant d'aller voir un film. Donc c'est à vous quand même, en tant que Bac plus 5 et au-delà, que vous deviez quand même aller à une formation de ce type avec déjà un bagage intellectuel pour pouvoir aller donc, vous confronter à d'autres. Donc c'est à vous d'aller sur je ne sais sur quel site, voir un peu, vous informer, pour pouvoir débattre avec les autres. Ça, c'est donc la méthodologie qu'on vous demande d'acquérir à Bac plus 5 jusqu'à Bac plus 8. C'est la méthodologie qui fera que lorsque j'ai un sujet de thèse qui est fait donc deux ou trois lignes, c'est à moi d'aller donc en profondeur, d'aller savoir un peu plus par la bibliographie que je peux faire donc sur mon sujet pour en savoir un peu plus, et même plus que mon directeur de thèse. Donc, je vous demande donc, d'avoir cette méthodologie et d'avoir donc, cette aptitude à aller débattre avec d'autres parce que c'est ce qui fera donc, de vous, en plus de la méthodologie scientifique de votre sujet, d'être donc, demain de bons citoyens pour tout le monde et en même temps aussi pour essayer de débattre parce que nous sommes quand même donc, dans un monde universitaire et le débat fait partie donc, de ce qui peut nous grandir. Je vous remercie et puis je demande aussi à tout le monde d'être aujourd'hui et demain parce qu'il ne suffit pas de venir en une seule formation pour valider. Donc, il faut suivre toute la formation pour pouvoir valider en formation, en module, les 4 ou je ne sais combien de crédits que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à l'Espace Medes France qui nous accueille depuis deux ans déjà et je les remercie surtout... Anne Bonnefoy, qui a essayé de faire un programme élogieux et en même temps aussi avoir donc, surtout des intervenants, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas nous qui sommes attelés à cette grande tâche donc, de trouver de bons intervenants pour essayer de faire en sorte que ça soit diversifié Et donc, je la remercie pour son organisation et la convention qui lie aujourd'hui l'Espace Médias France et l'Université de Poitiers. Donc, bien sûr, aussi, c'est au nom du Presse Limousin Poitou-Charente qui est en charge donc, de nous verser donc, 18 000 euros ce matin pour faire cette formation. Bien sûr, aussi, donc, beaucoup de remerciements aux intervenants. Donc, par exemple, Monsieur Diderot et Dorido qui vient de Lille, vous voyez un peu donc, la météo, donc, qui a bien voulu quand même être parmi nous. L'année dernière, il était déjà là et d'autres suivront tout à l'heure. Et je remercie vraiment donc, ces intervenants qui viennent de Paris, de Lyon et de Lille donc, pour faire en sorte que nous puissions donc, débattre des problèmes sociétaux donc, de ce type, donc les nanotechnologies. Merci à tout le monde et bonne conférence.
Bon, bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide malgré le fait que je sois assez bavarde. Donc je remercie moi aussi, puisqu'on a des remerciements, les écoles doctorales de leur confiance. Bon, ça fait quelques années qu'on travaille avec les écoles doctorales, depuis que je m'occupe aussi du pôle d'histoire des sciences et des techniques. Donc nous sommes dans un centre de culture scientifique, donc si vous voulez savoir ce que c'est, vous regardez sur le site internet, vous regardez le site internet d'Espace Médias France, vous saurez ce que l'on fait ici. Donc c'est un centre de culture scientifique en effet, mais qui ne dénie pas non plus les sciences de l'homme, puisqu'on a un partenariat avec les écoles doctorales. Hier soir, on avait une grande dame conférencière qui donnait une conférence à l'ENSIP, vous voyez, on avait réuni toutes les disciplines, les sciences de l'homme, les sciences dites dures, etc. Donc je voulais en effet, je suis très contente de cette journée, c'était très impressionnant de vous voir arriver tout à l'heure en bus, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une caméra pour vous filmer, parce que c'est vraiment très très impressionnant, je vous remercie de vous être déplacés. Et je voulais aussi en effet remercier les écoles doctorales, les directeurs écoles doctorales, Boniface Coco, Hubert Romain, de leur confiance et remercier aussi Sabrina et puis toutes les équipes qui sont autour d'eux du travail effectué. Donc c'est un grand plaisir de faire ça. Ça me semble facile maintenant, en fait ça ne l'est pas. Hein. N'imaginez pas qu'on trouve comme ça des conférenciers. On dit voilà, on cherche, on fait venir des gens et puis c'est toute une mise en place. Donc on a eu de la chance à l'espace, on a commencé à l'espace Médias France avant que les nanotechnologies soient un sujet à la mode et on sait combien controversé de faire des journées d'études sur les nanos. On a organisé 5 et lors de ces journées d'études, nous avons invité des conférenciers qui ont accepté de revenir ici. Donc Fernand Dorido fait partie de ces gens-là. Donc vous aurez des conférences très inter ou transdisciplinaires comme vous le voulez. Donc je pense que vous aurez chacun, vous voulez par rapport à votre discipline, à pêcher ce qui vous intéresse, mais aussi, je suis contente de savoir qu'il y a des gens, des géographes dans la salle, d'autres disciplines que les sciences dures, ces sciences dures en effet sont absolument les bienvenues. Donc vous aurez à pêcher dans les conférences ce qui peut vous intéresser, et contrairement à ce qu'on pense, les nanotechnologies c'est un sujet hyper complexe. Donc c'est pourquoi on a demandé à des conférenciers qu'on sait être de bons intervenants pour vous en parler. Et comme disait Étienne Klein l'autre jour à la radio, il y avait à la Sorbonne une étude, une réunion, des conférences, je ne sais pas si vous avez entendu, sur France Culture, sur la science aujourd'hui, la science des années passées. Et Étienne Klein, qui est un ami de la maison, que vous connaissez, qui est physicien, qui est déjà venu chez nous, disait que les nanotechnologies, c'est l'enjeu plus que les problèmes d'énergie nucléaire, c'est l'enjeu de l'avenir. Parce qu'elles sont déjà en place et on ne sait pas forcément quelles seront les implications futures. Donc là, non seulement vous allez apprendre des choses aujourd'hui, mais vous allez aussi pouvoir avoir sans doute des décisions, en espérant qu'il y ait aussi des discussions citoyennes, hein, qui sont quand même à des consensus citoyens, comme on le dit, des décisions à prendre, ou au moins avoir l'information pour savoir comment, d'une part, comment consommer, etc. Donc c'est un sujet brûlant et qui n'a pas été de cette demande qui avait été faite par l'Académie des sciences d'avoir des conférences de consensus sur les nanos. Les conférences de consensus sur les nanos se sont très mal passées parce que les conférences ont eu lieu dans des endroits où il y avait déjà des applications nano et il y avait des contre-pouvoirs qui avaient leurs arguments et qui en général cassaient tout dans la salle avant que les discussions aient lieu. Donc nous, le Centre de culture scientifique de Poitiers, un jour on a une conférencière qui est venue qui a dit « Je suis contente, ici on n'a rien cassé, mais venez de Grenoble, vous ne pouvez pas parler ». Donc c'est un sujet qui est brûlant, mais c'est un sujet transdisciplinaire, scientifique, sciences humaines, etc. Et un sujet aussi éthique très important, vous verrez, monsieur Greenbow vous en parlera. Donc je ne vais pas faire la conférence à la place des conférenciers. Par contre, vous avez des sites partout. Donc vous pouvez regarder sur Internet, vous avez vraiment des sites partout, des choses plus ou moins compréhensibles, ça c'est important, c'est assez difficile, c'est un sujet quand même assez complexe. Et donc je voulais aussi vous dire qu'on est le seul centre de culture scientifique à faire cette démarche, ça veut dire avoir un partenariat avec l'université pour faire venir les écoles doctorales. Donc ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est unique en France. Donc sachez-le, que vous êtes privilégiés, hein, vraiment. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vais présenter, vous avez tous le programme en main, on a un peu retard, mais enfin on va se débrouiller. Donc justement un sujet de société, puisqu'on commence avec une conférence d'introduction qui me semble primordiale. Il s'agit des nanotechnologies en société par Fernando Rideau, qui est professeur à l'IRCAM de Lille. Donc Fernand, je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes ingénieur de formation initiale et docteur en histoire et philosophie des sciences, comme quoi c'est possible. Donc ne soyons pas... voilà, parce que quelquefois on dit on fait de l'histoire et philosophie des sciences, oui qu'est-ce que c'est, disent les ingénieurs, etc. Voilà, c'est bizarre. Ben, voilà, il y a des gens qui ont des doubles casquettes et c'est important en effet pour avoir un éclairage sur les disciplines et ça devient primordial. Donc vous êtes actuellement enseignant-chercheur au département d'humanité de l'ICAM de Lille, école d'ingénieurs, et membre du Centre de recherche éthique, technique et société de l'ICAM. Vos travaux se répartissent entre l'histoire et la philosophie des mathématiques, la philosophie des techniques et de l'ingénieur, et la gouvernance des sciences et techniques. Vous êtes impliqué dans des projets de recherche européens et nationaux sur l'éthique et la gouvernance participative des techniques au sein desquelles vous étudiez particulièrement la question des nanotechnologies. Bienvenue à vous, Fernand, vous avez la parole. Merci à tous, bonne journée.
Ça marche, je peux. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, donc merci beaucoup, Anne, à la fois pour la présentation et surtout pour l'invitation. Ça fait quelques fois que je viens à Poitiers, à vrai dire, et donc j'en profite aussi pour m'excuser des redites éventuellement que les gens qui m'écoutent depuis un moment pourront repérer. Donc bonjour à tous également et donc merci de m'accueillir ici. Attendez, essayez de positionner correctement le micro. Bêtises. Et surtout il me faudrait le PowerPoint. Voilà. Voilà. Alors, ce que je me propose de faire... attends, excusez-moi, je ne suis pas très bien. Trouver sa place, hein, avant toute chose. Voilà, ça devrait aller mieux. Alors, ce que je me propose de faire, c'est, donc dans cette conférence introductive, c'est de vous parler des nanotechnologies en général et de la façon dont elles s'inscrivent dans les débats de société aujourd'hui. Hein. Alors, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait parmi vous à la fois des scientifiques, mais aussi des spécialistes de sciences humaines. Donc je vais essayer d'avoir un propos le plus généraliste possible. Et je voudrais commencer par vous rappeler que derrière ce terme nanotechnologie, en fait, on entend de nombreuses choses, hein, qu'elle couvre un spectre très large, en fait, allant des nanomatériaux, des nanoparticules, en passant par les nanomatériaux, jusqu'aux aux matériaux nanostructurés, qui sont encore des choses différentes, et pour aller aussi vers des applications encore plus générales qui concernent les nanotechnologies au sens large. Donc je vais essayer de préciser progressivement de quoi on parle, et en même temps, je le redis, mon exposé portera sur toutes les questions posées aujourd'hui par les nanotechnologies en général. Alors, ce que je propose, c'est de revenir d'abord sur un petit peu d'histoire, hein, en montrant notamment comment les nanotechnologies se sont inscrites dans un certain nombre de projets de société. Et après, ce que je ferai dans un deuxième temps, c'est une sorte de panorama des questions posées aujourd'hui par le développement des nanotechnologies, hein, en procédant application par application, puisque vous savez qu'elles ont tendance aujourd'hui à être attendues à l'occasion de nombreux champs et donc à avoir cette capacité à toucher de nombreuses choses. Et alors, selon le temps disponible, je reviendrai dans une troisième partie sur la façon dont justement on a essayé d'organiser des débats de société autour de ces questions de nanotechnologie. Et je mentionnerai l'exemple du débat public qui, comme le disait Anne, est resté une expérience assez malheureuse puisqu'il a été très perturbé par un certain nombre d'opposants. Donc voilà en gros comment je vais procéder. Alors, pourquoi commencer par un petit peu d'histoire et par évoquer des projets de société ? Eh bien, parce que les nanotechnologies ont été, d'une part, je vais le rappeler, des gains concernant un certain nombre de prouesses techniques et scientifiques, et en même temps ont été, dès le début de leur développement, mobilisés dans un certain nombre de projets, justement, de sociétés ou de grandes visions, donc appelés par un certain nombre de gens qui sont devenus des promoteurs des nanotechnologies à devoir s'inscrire dans un futur très particulier. Et donc, c'est-à-dire que ça n'a jamais été en quelque sorte une technologie neutre. On a tout de suite voulu la faire parler au bénéfice de tel ou tel projet, de telle ou telle vision de la société. Alors ça, c'est pas anodin. Hein. C'est pas propre aux nanotechnologies, ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire de nombreuses périodes de par exemple, on a eu, vous savez tous, une grande révolution scientifique au XVIIe siècle. Et déjà, à l'occasion de cette révolution, certains se sont plus à imaginer, à rêver de ce qu'on pourrait faire à partir de toutes ces nouvelles découvertes. Mais ce qu'il y a de particulier dans le cas des nanotechnologies, c'est que ces visions de société se sont développées quasi simultanément aux premières découvertes scientifiques, et qu'en plus, ces grandes visions de la société continuent en grande part à impacter aujourd'hui le débat sur les nanotechnologies. Hein. Et s'il y a des opposants radicaux aujourd'hui à la question des nanos, c'est aussi parce que dès le début, certains ont voulu faire servir les nanotechnologies à un certain nombre de buts qui peuvent être, comme on va le voir, parfois critiquables. Donc voilà. Alors, qu'en est-il de ces projets de société à l'origine du développement des nanos ? Donc je les évoquerai en trois parties. J'évoquerai la façon dont on les trouve dans les écrits d'un ingénieur américain qui s'appelle Eric Drexler. Je parlerai de la façon dont on les trouve dans un certain nombre de rapports américains datant du début des années 2000, et en particulier dans ceux émis par une association qui s'appelle la NNI, National Nanotechnology Initiative. J'évoquerai la façon dont les Européens ont essayé de se démarquer justement de ces projets de société parce qu'ils leur paraissaient, d'un certain point de vue, dangereux et peu souhaitables pour l'humanité. Alors, ces projets de société, comme je vous le disais, ils viennent finalement assez simultanément aux découvertes elles-mêmes. Alors, si vous restez sur le plan strictement scientifique et technique, j'ai mentionné ici quelques dates importantes concernant le développement propre des nanotechnologies. Alors, on retient souvent les dates suivantes. Déjà en 1900, alors bon, y a eu un certain nombre de discours qui anticipaient grandement ces choses, notamment dans les années 50, un discours de quelqu'un qui s'appelait Feynman, que les physiciens doivent connaître très bien. Mais on mentionne souvent comme date de naissance des nanos celle, donc 1981, la date de l'invention du microscope à effet tunnel. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais vous savez que ce microscope à effet tunnel est quelque chose qui permet de voir à l'échelle atomique, hein, en analysant un signal électrique, enfin, une transmission d'électrons qui se fait selon les lois quantiques entre la pointe du microscope et la surface qu'on veut observer, en reconstituant le signal, on arrive à avoir une vision très nette de la façon dont une surface quelconque est structurée à l'échelle atomique. C'est-à-dire qu'on voit les atomes, et puis vous savez qu'aussi avec ce microscope à effet tunnel, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on peut également s'en servir pour pousser les atomes, pour agir directement sur la matière, à atome par atome. Hein. Donc l'invention de ce microscope donnait lieu à le rêve de la possibilité d'agir sur la matière à l'échelle atomique. Donc évidemment quelque chose de très important. Bon, d'autres dates, en 1989, on découvre des molécules très spéciales qu'on appelle les fulrènes, constituées de 60 atomes de carbone disposés selon des sphères avec une géométrie très particulière. Fulrènes qui se révèlent très intéressantes parce qu'on en attend de multiples applications et qu'on peut les faire servir à de nombreuses choses, en particulier dans le domaine de la médecine. Le développement des nanos a été marqué par un certain nombre de prouesses. Par exemple, en 1990, vous savez que la firme IBM arrive à écrire son sigle avec 25 atomes de xénon, donc manifestant la façon dont on peut écrire sur la matière à l'échelle atomique, hein, et donnant lieu d'ailleurs à des rêves concernant les possibilités infinies d'écriture, puisqu'à cette échelle-là, vous pouvez écrire énormément de choses. On pourrait faire tenir tous les écrits de l'encyclopédie universaliste sur des très très petites surfaces, hein, donc possibilités infinies. En 1991, on découvre un autre produit phare des nanos qui est celui qui sont les nanotubes de carbone. Hein, donc agencement très particulier sous forme de tubes d'atomes de carbone avec des propriétés tout à fait stupéfiantes hein, puisque vous savez qu'ils sont en particulier 100 fois plus résistants que l'acier et 6 fois plus légers hein. Donc possibilité inouïe dans le domaine de la construction hein. Il se révèle en plus de très bons conducteurs, hein, électriques notamment. Donc on a en plus la possibilité d'en faire de nombreuses formes. Il existe, je crois, plusieurs centaines de types de nanotubes de carbone, hein, selon leur taille, le diamètre du tube, la façon dont ils sont multiparois ou faits d'une seule paroi, etc. Donc, voilà, de multiples applications. Hein, juste pour prendre un exemple qu'on cite souvent, vous savez qu'on espérait, grâce à ces nanotubes, faire par exemple un ascenseur pour l'espace, hein, qui serait assez puissant pour soutenir quelque chose qui partirait vers l'espace pour mettre des choses en orbite et qui serait assez résistant. Hein. Bon, à côté de ça, on les trouve déjà partout dans de nombreux articles de sport, dans nos voitures, etc., etc. Bon, et dans le domaine de l'électronique, 1996, on arrive à faire un transistor avec une seule molécule constituée d'un nanotube de carbone, donc donnant lieu là aussi au début de tout un tas d'applications dans le domaine de l'électronique pour aller vers des transistors et donc des ordinateurs beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, performants que ceux qu'on a aujourd'hui. Voilà, bon, petite chronologie, bon, évidemment, qui n'a pas cessé de croître depuis ces dates. Alors, à côté de ça, les projets de société dont je vous parlais, comme je vous disais, ils arrivent finalement en même temps. Hein. Et alors, en particulier, les projets de Drexler, tels qu'ils sont présentés dans un livre qui s'appelle « Engin de création, hein, l'ère à venir des nanotechnologies », c'est en 1986. Alors, Drexler est important parce qu'il est le premier à essayer de brosser ce que serait un avenir basé sur les nanotechnologies. Et en particulier, il est très intéressé par cette idée de machine moléculaire, c'est-à-dire de machine qui serait capable de synthétiser directement à l'échelon des atomiques et moléculaires un certain nombre de substances. Hein. Donc, en synthétisant directement les molécules, on pourrait, d'après Drexler, régler les problèmes de la sauvegarde des ressources, hein, de la préservation de l'environnement, c'est-à-dire en gros tous les problèmes qui touchent notre société industrielle. Donc Drexler est très optimiste, il prédit un futur d'abondance, un futur inévitable, ça c'est important aussi parce que c'est une des choses qui ont pas mal façonné le débat, c'est cette idée que de toute façon on n'échappera pas au futur nanotechnologique, hein. Pour des gens comme Drexler, toute l'histoire humaine l'a préparé ce futur, hein. Il est très déterministe de ce point de vue-là, et un futur qui... paradoxalement, pourra permettre d'échapper à la technologie. Des gens comme Drexler voyaient même, pourquoi pas, le retour à la vie en petite communauté, hein, à partir du moment où nous aurions ces choses pour synthétiser directement les molécules. Alors, c'est un futur qui n'est pas exempt de risques. Drexler est un des premiers à dire qu'il faudra faire attention à un certain nombre d'embûches sur ce chemin, et en particulier le premier à populariser ce risque de la gelée grise, hein, le grey goo, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si des petits organismes autonomes venaient à absorber tout le carbone, en fait, hein, à s'auto-répliquer en absorbant tout le carbone de l'atmosphère, et la façon dont ils pourraient finalement engloutir toute la Terre. Alors, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais c'est un risque qui, à une certaine époque, a été pris très au sérieux et qui a beaucoup joué dans la popularisation des nanotechnologies. Hein, quelques années plus tard, sachez que, par exemple, c'est le prince Charles qui entendra parler de ce risque de grey goo et qui en conclura que les nanotechnologies sont en train de menacer le monde. Alors, ça n'a l'air de rien, mais malgré tout, il demandera du coup au gouvernement britannique de se pencher sur la question. Et des premiers rapports un peu sérieux sur l'évaluation des risques et les précautions à prendre seront publiés à cette occasion. Hein, donc, bon, depuis, ce risque, il a été largement relativisé. Hein, d'autres personnes ont montré que ce n'était pas objectivement à craindre, cette auto-réplication. Mais il a servi un peu de catalyseur. Donc, Drexler disait, voilà, nous y allons de toute façon, il y a des risques, il faut se préparer à tout ça. Alors... là, les États-Unis, hein, conscients du potentiel important des nanotechnologies, puisque dès le début, on fait des plans sur les possibilités économiques aussi du développement des nanos, Hein, je vous montrerai, enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais certaines anticipations. Hein. On en attend beaucoup, justement, du fait de toutes ces applications. Les États-Unis, donc, décrètent d'énormes projets, en particulier au début des années 2000, pour développer les nanos. Hein, c'est une histoire de milliards de dollars. Et ils lancent donc cette National Nanotechnology Initiative, qui consiste à promouvoir, soutenir les efforts de recherche dans le domaine des nanotechnologies. Et ça donne lieu à la publication de deux rapports, entre autres, dont un en 2002, qu'on cite toujours parce qu'il est important, qui s'appelle « Technologies convergentes pour l'amélioration des performances humaines ». Et un autre de 2004 qui s'appelle « La coévolution du potentiel humain et des technologies convergentes ». Alors ça, c'est important parce que donc, c'est... Sous la férule de ces Américains, que ces notions de technologies convergentes vont s'imposer et dans le but avoué d'aller vers l'amélioration des performances humaines. Alors, ces technologies convergentes, vous devez le connaître, hein, c'est ce fameux quatuor NBIC, donc nano, bio, info, cogno, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, enfin, ou sciences de la cognition. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Cette convergence a différentes significations. En gros, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée que de plus en plus, en remontant aux constituants primitifs des choses, on arrive à expliquer des phénomènes émergents. Donc, la plupart des phénomènes macro peuvent s'expliquer à partir de la connaissance de ce qui se passe au niveau micro, au niveau nano, etc. Il y a une vision très réductionniste, hein, dans cette histoire de convergence, avec l'idée que des choses très compliquées, comme par exemple le fonctionnement du cerveau, au final devront pouvoir se réduire, s'expliquer par la connaissance de tous les mécanismes neuronaux au niveau des synapses, etc. Et l'idée que dans chacune de ces sciences, les choses vont marcher pareil, et qu'en plus de ça, elles vont converger. Hein. Par exemple, vous savez que ce qu'il y a de vrai dans tout ça, c'est que l'échelle du nanomètre, c'est l'échelle pertinente pour comprendre un tas de phénomènes venant de champs très différents, hein, aussi bien dans la biologie que dans le domaine des matériaux. Donc, que ça touche l'inerte, l'artificiel, le vivant, le biologique, peu importe, c'est au niveau des molécules et des atomes qu'on comprend tout un tas de choses. Hein. Donc en cela, cette échelle du nano, elle vient pour fédérer les autres. Et en plus, on attend beaucoup de coopération entre les disciplines, par exemple dans le domaine de la nanobiotechnologie. Hein, donc voilà. Alors cette convergence, donc promue et voulue par les Américains, comme je vous le disais, elle est censée permettre, aux yeux de ces rapports, alors c'est une phrase qu'on cite vraiment très très souvent, le bien-être matériel et spirituel universel, l'interaction pacifique et mutuellement avantageuse entre les humains et les machines intelligentes, la disparition complète des obstacles à la communication généralisée, l'accès à des sources d'énergie inépuisables, la fin des soucis liés à la dégradation de l'environnement, etc. etc. Donc vous voyez qu'on nous y brosse une société très, très utopique, notamment dans laquelle les hommes, presque la différence d'ailleurs entre hommes et machines viendrait à disparaître, hein, puisqu'il y aurait une sorte de communication généralisée, de mise en réseau, et dans laquelle ce qu'on recherche au final, c'est l'amélioration des performances humaines. Hein. Alors, on retrouve là l'expression directe d'un projet dont vous avez dû entendre parler, hein, qui est ce fameux projet du transhumanisme, hein, qui vise globalement à dire qu'il convient maintenant pour l'homme de prendre lui-même la direction de son évolution. Hein. Jusqu'à présent, nous avons laissé faire la sélection naturelle qui nous a fait tel que nous sommes, c'est-à-dire pas mal, mais quand même imparfait à de nombreux points de vue. Et il s'agit maintenant de se perfectionner en prenant nous-mêmes les choses en main. Hein. Donc, il y a aux États-Unis tout un mouvement transhumaniste qui d'ailleurs a diffusé. Vous avez maintenant en France même une association transhumaniste, hein, de gens qui visent à la transformation par tous les moyens de l'espèce humaine. Alors je reviendrai là-dessus. En tout cas, vous voyez que ce qui sous-tend tout ça, c'est une idéologie de l'amélioration des performances individuelles de l'homme. Hein, c'est-à-dire, il s'agit par tout ça de se rendre plus fort, plus grand, plus résistant, plus intelligent. Pourquoi pas justement d'être capable à terme de télécharger notre contenu mental sur des machines. D'ailleurs, certains mentionnent le fait que longtemps, nos machines nous avaient pris les hommes pour modèle. Hein, nous essayons par les machines de ressentir ressembler aux hommes. Maintenant, c'est presque les machines qui sont devenues le modèle pour le développement de l'homme. Hein, donc les choses se sont inversées. Et vous savez que certains penseurs du transhumanisme, hein, comme quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, ont même théorisé le moment de ce qu'il appelle la singularité, où les machines deviendront plus intelligentes que les êtres humains. Hein. Avec toutes les questions qu'on peut se poser, qu'adviendra-t-il de l'espèce humaine à ce moment-là? Est-ce qu'elle deviendra une espèce protégée par les machines, réduite en esclavage? Enfin, toutes les possibilités sont ouvertes. Bon, donc c'est quand même une société qui n'est pas très rassurante, finalement, hein, et les nanotechnologies semblent mises au service de cette société-là. Et alors, certains parmi les promoteurs hein, de cette nanotechnologie ont édicté des calendriers dans lesquels ils ont essayé d'anticiper les différentes vagues et les différentes réalisations des nanotechnologies à venir. Hein. Alors, notamment, l'idée que nous allons commencer par des nanostructures passives, donc des revêtements, des nanoparticules, des métaux nanostructurés, etc., tout un tas de choses que nous avons déjà et qui sont celles qui, aujourd'hui, posent le plus de questions et de problèmes hein, concernant les nanos, je reviendrai là-dessus, notamment les nanomatériaux. Mais à terme, nous allons aller de plus en plus vers des nanostructures actives, des médicaments ciblés, par exemple. Nous allons après aller vers des systèmes de nanosystèmes, donc notamment des robots, des systèmes susceptibles d'évolution. Et la toile de fond, c'est d'aller vers justement ces nanosystèmes, vers ces appareils moléculaires dont parlait Drexler, hein, ces sortes de choses qui mimeront d'ailleurs aussi la façon dont le vivant se construit, hein, la façon dont notre corps se construit à partir de phénomènes atomiques. Ben nous allons le mimer en construisant des machines qui referont la même chose. Alors, ils ont édicté des chronologies qui sont revues en permanence, hein, sans doute qu'on ne sera pas en 2020 aux nanosystèmes moléculaires, mais il y a cette idée que le futur est brossé, qu'on va y aller de toute façon. Hein. Alors, dès le début d'ailleurs, hein, cette ENI, consciente que tout cela n'allait pas se faire, tout cela devait se faire et tout cela n'allait pas se faire sans difficulté, elle a aussi enrôlé un certain nombre de gens qui étaient des éthiciens, des spécialistes de sciences humaines, des juristes, etc., pour réfléchir aux problèmes que tout cela allait poser. Mais avec l'idée qu'en définitive, il fallait les régler ces problèmes parce que ce futur, on n'allait pas y échapper. Il fallait même le préparer. Et d'ailleurs, il fallait même, dans certaines mesures, préparer l'esprit des gens à accepter ce futur. Hein ? Alors, les Européens ont éprouvé le besoin de se démarquer en certaines formes de ces visions américaines. Et sachez que ça s'est fait en différentes étapes. Donc en 2004, comme je vous le disais, il y a eu des rapports importants qui ont été émis au Royaume-Uni. Hein. Et alors je passe un peu vite là-dessus. Et il y a notamment les Européens ont en 2004 édicté un rapport qui s'appelle Technologie convergente, façonner le futur des sociétés européennes. Donc il se veut un petit peu la réaction au rapport américain qui a été écrit dirigé par un philosophe allemand qui s'appelle Alfred Norman, qui est très actif dans le champ des nanos, et dans lequel on a essayé de supprimer toutes ces idées d'augmentation. Hein, on a plutôt mis en avant la réalité des sociétés européennes plutôt que la performance humaine. On a voulu remplacer cette histoire d'ingénierie de l'esprit par l'ingénierie pour l'esprit, hein, en manifestant l'idée que ce qui devait rester le plus important dans tout ça, c'était l'homme tel qu'il était, c'était ce qui pouvait servir le bien-être de l'homme, plutôt que faire servir l'homme à autre chose. Hein. Donc globalement, les Européens ont essayé de mettre plus d'humanisme dans cette vision des nanotechnologies, et de réfléchir à la vision, à la façon dont les nanos pourraient servir des projets plus humanistes. Voilà, bon, je passe sur les détails, mais il y a en tout cas en toile de fond hein, de tous les débats sur les nanos aujourd'hui, je pense, c'est ces visions-là. Hein, donc elles sont importantes à mentionner, ça, ne fût-ce que pour rappeler qu'une technologie n'est jamais neutre, hein, une technologie c'est une chose, mais ce qu'on en fait, ou ce qu'on veut en faire, en est une autre, hein, qu'il faut évoquer le plus rapidement possible, ou tout du moins qu'on n'a peut-être pas assez évoqué dans le passé, mais que maintenant on estime nécessaire d'évoquer rapidement. Alors, ceci étant, si on essaie maintenant de faire un petit panorama de la façon dont se posent des questions dans les différents champs d'application des nanos. Hein. Aujourd'hui, pourquoi à quoi se sert-on des nanos et quel genre de questions se posent à leur sujet ? Alors, je propose de procéder en évoquant les applications pour l'énergie et l'environnement, les applications des nanomatériaux, qui sont sans doute les questions les plus urgentes qui se posent aujourd'hui concernant les nanos. J'évoquerai les applications médicales, les applications dans l'informatique et les télécommunications et les applications militaires. Dans tous ces champs se posent des questions qui sont en partie des questions sanitaires, des questions de santé, en partie des questions d'éthique, hein, aussi des questions plus philosophiques, plus généralement. Dans ces différents champs, on est plus ou moins avancé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui existent déjà, que je vous disais, il y en a qui sont encore des visions vers lesquelles on va. Hein. Donc les questions ne se posent pas toutes avec la même urgence. Une fois encore, si on devait retenir la question cruciale qui se pose aujourd'hui, la plus urgente, c'est celle de la nocivité de toutes les nanoparticules qui sont disséminées dans l'environnement. Ça, c'est indéniable. Hein. Mais toutes les autres vont se poser sans doute dans les années à venir, ou risquent de se poser. Alors, je reviendrai sur la nocivité. Dans le domaine de l'énergie et l'environnement, c'est important parce qu'on est confronté à des enjeux énergétiques compliqués, vous le savez, et on attend beaucoup des nanos pour les soutenir. Hein. Notamment, grâce aux nanotechnologies, vous savez qu'on espère faire des piles à combustible, des batteries très performantes, notamment qui équiperont les voitures électriques de demain. On espère faire, par exemple, des choses qui sont encore dures, comme le stockage de l'hydrogène, qui serait très utile. On espère que des choses comme les nanotubes, par exemple, pourront servir à ça. On veut isoler davantage nos bâtiments, on espère des ampoules performantes, on espère alléger les structures par des matériaux plus légers et plus résistants, on fera des voitures moins lourdes, donc qui consommeront moins. On espère faire des panneaux solaires à haut rendement grâce aux nanofibres de silicium, des cellules solaires applicables, etc., etc. Et plus généralement, ce qu'on espère faire grâce aux nanotechnologies, c'est procéder par construction plutôt que par réduction. Hein, vous savez, c'est un des problèmes majeurs de notre société industrielle, c'est qu'elle fabrique ces choses en prenant un matériau brut et en éliminant tout ce qui n'est pas utile. Donc ça veut dire évidemment beaucoup de déchets, hein, de façon inévitable. Grâce aux nanos, procédant par construction, on peut espérer faire des économies notoires. On espère épurer l'eau pour les pays émergents par des filtres à nanoparticules. On espère dépolluer les sols en injectant des nanoparticules, les sols notamment marqués par les pesticides, etc., etc. Donc tout un tas d'attentes. Alors, quel genre de problèmes peuvent déjà être évoqués? Alors, la nocivité des particules, je vais revenir dessus, mais déjà l'idée qu'il convient de faire des bilans énergétiques qui soient vraiment, qui prennent tout en compte, hein, et ce qui est rarement fait encore aujourd'hui, parce que c'est assez dur à faire. Notamment, vous savez que se développent beaucoup ces analyses de cycle de vie, hein, concernant un certain nombre de produits, c'est-à-dire qu'on estime maintenant nécessaire de partir dès la source et de regarder ce qu'il advient d'un produit jusqu'au moment où on arrête de l'utiliser. Il convient de faire exactement la même chose pour les produits nano, et c'est assez compliqué la plupart du temps. Et globalement, les processus de production actuels des nanoproduits restent très gourmands en énergie. Hein, si vous pouvez produire des nanotubes de carbone, il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Les salles blanches sont très très gourmands en eau et en électricité. Ce gain en énergie, il reste encore à être justifié aujourd'hui. Hein. Après, l'impact général du cycle de vie des nanomatériaux pourrait être beaucoup plus important que celui des matériaux traditionnels. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent mentionné. Hein. On évoquait cette question je vais revenir sur les nanomatériaux. Accès des pays pauvres aux nanotechnologies dans un marché dominé par les brevets occidentaux. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mentionné, c'est le risque de rupture, hein, qui ne concerne pas uniquement les nanos, qui est propre à toute technologie, mais que les nanos vont sans doute rendre encore plus frappant. Hein. Est-ce que vraiment, c'est là que nous touchons des questions politiques. Hein. Vous retrouvez au sujet des nanos tout un tas de discours qui étaient déjà ceux qu'on mentionnait pour les OGM, par exemple, hein, qui étaient censés nourrir le tiers-monde, faire pousser du blé dans le désert, etc. Et vous savez que globalement, on les trouve surtout aux États-Unis, dans les pays occidentaux, et qu'ils n'ont fait que renforcer la fracture entre les riches et les pauvres, en quelque sorte. Hein. Donc les nanos risquent évidemment de faire pareil à la puissance, 10 puissance 3. Alors, les nanomatériaux. Comme je vous le disais, c'est là que se posent sans doute les questions les plus urgentes. On attend énormément de choses des nanomatériaux. Je reviendrai sur la question de définition. Et de la façon dont on va insérer dans un certain nombre de choses des nanomatériaux formés de nanoparticules. Hein, parce que nous savons, grâce aux nanomatériaux, aux nanoparticules injectées, faire des matériaux plus solides, et par exemple des matériaux auto-nettoyants, antibactériens, antipolluants, etc., tout un tas de choses, dans des domaines comme l'automobile, les articles de sport, les textiles, la construction, le cosmétique, l'alimentaire, etc., etc. Et il y en a déjà énormément beaucoup. Hein. Divers recensements existent. Hein. Il y a encore 2-3 ans, déjà plus de 1000 produits sur le monde entier qui faisaient usage de nanomatériaux. Alors, un petit focus sur 4 nanomatériaux dont on parle très souvent, qui sont particulièrement incriminés. C'est le nano-argent, le dioxyde de titane nanométrique, la nanosilice et le nanotube de carbone. Alors, ces nanomatériaux, ils existent déjà en grande quantité. Hein. Je voulais pas trop m'étendre sur la définition propre des nanomatériaux, parce que je crois qu'après on aborde les aspects juridiques dans lesquels j'imagine qu'on va revenir sur cette définition. Sachez que la Commission européenne a enfin fini par s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelait exactement un nanomatériau. Donc elle a retenu une définition. C'est un matériau qui est formé à partir de nanoparticules, enfin qui contient des nanoparticules. Si vous prenez la définition telle qu'il existe aujourd'hui, je crois que vous avez déjà plus de 11 millions de tonnes de nanomatériaux présents dans le monde entier. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas plus du tout des choses qui sont encore expérimentales, qu'on développe petit à petit. C'est déjà des choses qui sont produites en très grande quantité et qu'on trouve dans énormément de produits. Hein. Donc, et même des produits de consommation courante et même, évidemment, l'alimentaire. Hein. Alors, par exemple, les nanomatériaux les plus produits au niveau mondial, c'est le noir de carbone, hein, qu'on trouve entre autres dans les pneus de voiture, hein, et la nanosilice. Hein. Alors, la nanosilice, c'est-à-dire le dioxyde de silice, hein, sous forme amorphe. Donc, pas la forme cristalline, mais la forme amorphe. La forme amorphe, et on la trouve en grande quantité déjà dans l'alimentaire. Hein, parce que c'est un anti-agglomérant, en fait, hein, dans le sucre, dans le sel, dans tout un tas de produits de consommation courante, vous avez de la nanosilice. Hein. Alors, qui est en fait autorisée de longue date, qui possède un numéro, je crois que c'est E550, hein, quelque chose de très, c'est un additif alimentaire qui est autorisé de longue date. Ce qui a changé les dernières années, c'est qu'on est capable de la faire à des échelles de plus en plus petites. Et évidemment, la législation n'a pas suivi. Hein, c'est-à-dire qu'on continue à l'autoriser sous la forme conventionnelle E550, mais sous la forme conventionnelle, on fait passer aujourd'hui des choses qui sont en fait beaucoup plus petites et donc qui ont des propriétés tout à fait nouvelles et qu'on découvre progressivement. Donc des risques de dangerosité tout à fait inédits. Hein. Voilà, donc la nanosilice, on la trouve vraiment, vraiment beaucoup, hein, un peu partout. Le dioxyde de titane, on le trouve également dans de plus en plus de choses. On le trouve dans l'alimentaire. C'est un autre additif alimentaire, d'ailleurs. Hein, c'est un pigment blanc. Vous le trouvez dans plein de choses, dans les pâtisseries, etc. Et puis, le dioxyde de titane, il est utilisé aussi beaucoup, vous devez le savoir, dans les cosmétiques. Hein. Il y a énormément, aujourd'hui, de crèmes solaires à base de dioxyde de titane. Et alors retenu parce qu'il permet de rendre les crèmes moins opaques, hein, plus facile d'usage, donc a priori plus protectrices, etc. Sachez, juste petite parenthèse, hein, dans des pays comme l'Australie, vous avez, je crois, plus de 70% des cosmétiques qui sont déjà, des crèmes solaires qui sont déjà à base de nano. Hein. Alors, pourquoi ? Ben, parce que dans des pays comme l'Australie, vous avez un gros problème de santé publique avec le risque de cancer. Hein, de la peau, sachant que la couche d'ozone est un peu détériorée au-dessus. Hein. Donc, la société s'est ruée vers l'usage de ces crèmes qui étaient a priori plus protectrices et plus faciles d'usage, mais crèmes dont on découvre aujourd'hui la nocivité. Hein. Alors, vous savez peut-être, hein, qu'il y a des études, par exemple, qui montrent qu'aujourd'hui, si vous mettez une crème à base de dioxyde de titane et que vous l'utilisez dans une piscine, par exemple, le chlore, il y a récemment des études qui ont montré ça, le chlore peut attaquer, en fait, la petite couche d'oxyde d'aluminium qui protège, a priori, le dioxyde de titane. Alors, si vous attaquez cette couche, vous rendez le dioxyde de titane nanométrique potentiellement dangereux. hein, sous l'effet de la lumière. Il a un effet photocatalytique, il peut créer des radicaux libres, etc. etc. Donc, grosse controverse, en fait, au niveau de cette dangerosité. Hein. Dans un contexte où, globalement, et je le dis tout de suite, on le redira en permanence, j'imagine, on connaît encore très, très peu de choses. Hein. Toutes les études nécessaires pour connaître exactement la nocivité vont prendre des années. Il y a énormément de choses à connaître, c'est d'une complexité inouïe. Il y a aussi les effets, le problème des effets cocktails, hein, la façon dont les choses vont s'accumuler. Et on n'aura sans doute pas de réponse définitive avant 10 ou 15 ans. Et il est probable que dans cet intervalle de 10 ou 15 ans, les produits vont continuer à se répandre. Et voilà. Bon, donc, à vrai dire, on peut pas tellement faire autre chose aujourd'hui que de commencer à faire des études de traçabilité pour des problèmes qui se poseront dans 10 ou 15 ans. Je pense que les choses vont se passer comme ça. Bon, alors, les nanotubes de carbone eux-mêmes sont dangereux. Les nanotubes, c'est-à-dire, vous savez qu'on les a comparés à l'amiante, hein, et ils sont longs, ils pénètrent dans les cellules, etc. Alors, néanmoins, pour des choses comme les nanotubes, on espère réussir à contrôler la dangerosité, notamment en jouant sur la taille. Hein, on a quand même compris que s'ils étaient monoparois, ils étaient moins dangereux que s'ils étaient multiparois. Et on a isolé un intervalle de taille dans lequel ils étaient moins dangereux. S'ils sont plus grands que cet intervalle, ils sont plus dangereux parce qu'ils pénètrent ils pénètrent davantage. S'ils sont plus petits, ils sont plus... Enfin, excusez-moi. Bref. Il y a un intervalle dans lequel ils sont moins dangereux, ils pénètrent moins. Hein, ils s'accumulent moins. Voilà. Donc, connaître cet intervalle permet déjà de faire, en quelque sorte, ce qu'on appelle du safe by design, hein, de ne les produire que dans cet intervalle-là, de façon à limiter les risques. Donc, peut-être que ça, c'est une démarche intéressante aussi pour l'avenir des nanos. Hein. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est tout à fait incapable de faire ça pour la multiplicité énorme des types de nanoparticules qu'on produit. Hein. Et peut-être que pour arriver à ces connaissances, là encore, il faudra énormément de temps. Bon, le nano-argent, alors, très utilisé pour ses propriétés antibactériennes, on le disait, avec de gros problèmes de santé publique qui vont rapidement se développer. Hein. On le retrouve, on le disait très bien, dans les stations d'épuration qui, du coup, ne fonctionnent plus. Vous avez déjà des chaussettes au nano-argent, etc., supposées effectivement être antibactériennes, etc. Vous en trouvez beaucoup sur les écrans d'ordinateur, enfin les claviers, tout ce qui est souvent promu comme antibactérien aujourd'hui est souvent traité au nano-argent. Et le problème, c'est qu'on dispose pas encore aujourd'hui d'études en conditions réelles qui permettent de démontrer la nocivité. Hein, bien qu'il y ait des publications assez récentes là, qui pensent avoir quand même atteint un niveau de réalisme assez intéressant. Hein. Jusqu'à présent, le problème de toutes les études de toxicologie, etc., c'est qu'elles sont faites dans des conditions théoriques, hein, où elles sont faites in vitro, et donc elles sont incapables de simuler correctement des utilisations réelles. Bon. Voilà. Alors, un mot sur les applications médicales. Alors, qualifié de cheval de Troie des nanotechnologies par certaines associations, au sens où ça paraît être le domaine dans lequel se justifiera le plus les applications de nanotechnologie. Hein. Nous pourrons, grâce aux nanos, faire, et nous faisons déjà, des médicaments vectorisés, des particules qui passeront les barrières encéphaliques et du coup qui permettront de traiter des choses comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. On attend des implants pour la délivrance de médicaments et la stimulation. On attend des prothèses, des interfaces cerveau-ordinateur, des instruments de diagnostic, hein, des biopuces très très performantes qui permettront de déceler des pathologies à partir du développement des toutes premières molécules, hein, d'agents pathogènes, donc qui permettront un diagnostic très très précoce. Hein. Donc ça, c'est tout un tas de choses qui paraissent très 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 utiles. Alors en même temps, se posent d'ores et déjà de nombreuses questions, en particulier de questions d'éthique dans ce domaine-là, qui vont elles aussi se développer progressivement dans les années à venir. Alors, type de questions d'éthique, qui sont des questions assez classiques, hein, mais qu'une fois encore, les nanotechnologies vont venir renforcer. La diagnostic précoce, c'est bien par certains côtés, mais ça va pas être très facile dans les faits. Hein. Que faut-il révéler en termes à un patient? C'est des questions classiques. Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui souffre d'une pathologie, qui risque dans une quinzaine d'années, par exemple, de souffrir d'une pathologie pour laquelle on n'a pas de traitement? Hein. Est-ce que vraiment c'est susceptible d'améliorer la vie humaine que d'avoir ce type de connaissances? Est-ce qu'il convient de révéler ça à un sujet? Bon, on peut en discuter longtemps, hein, mais ce sont des questions qui vont se poser. Et surtout les problèmes de confidentialité. Hein, évidemment, avec la multiplication de ces connaissances, on va attiser l'appétit de tous les employeurs, de tous les assureurs. Hein, vous savez déjà que c'est assez compliqué aujourd'hui d'obtenir des prêts immobiliers de la part d'assureurs qui vont de plus en plus être avides de toutes ces informations données. En plus, il y a des problèmes évidents de protection des données qui se posent d'ores et déjà. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez en plus aller vers des diagnostics efficaces, ça ne peut se faire qu'en croisant de grandes quantités d'informations, hein, de remonter sur des pathologies. Et donc, ça veut dire, de fait, en diffusant et en collectant de grandes quantités de données sur les individus. Hein. Donc, se posent toutes des questions de respect de la vie privée qui vont être cruciales. Alors, on retrouve le problème de l'amélioration du corps humain. Et toutes les questions du transhumanisme que j'évoquais tout à l'heure, elles vont se poser de façon notoire dans le domaine de la médecine, hein, avec d'ores et déjà une certaine tendance, parfois de la part du corps médical, qui est dénoncée par certains, à penser, à avoir une vision assez normative, finalement, de ce que doit être un être humain en bonne santé. Hein. La question se pose, par exemple, d'ores et déjà pour certaines catégories de sourds, hein, qu'on munit de façon presque directive de certaines formes de prothèses, avec des effets sociaux qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire que ces gens-là, souvent, n'entendent pas comme des gens tout à fait normaux, et en même temps sont privés, par exemple, de choses comme le langage des signes, hein, qui leur assurait une sociabilité. Donc, en voulant résoudre comme ça, de façon très médicale, un certain nombre de questions, on risque d'ouvrir le champ à de nombreuses questions sociales, en fait. Hein. Et c'est vrai que le corps médical reste risque de se sentir incité, comme ça, à doter les gens de tout un tas de prothèses. Bon, vous retrouvez la problématique de l'amélioration du corps humain. De toute façon, hein, l'idée avec toutes les questions qui vont avec, l'idée qu'à partir du moment où une norme sera définie, tous les gens qui ne sont pas dans cette norme seront exclus de fait. Hein, c'est ce qui est question classique. Alors, se posent de nombreuses questions sur le cadre des tests et des expériences. Sachez que à Grenoble, il y a un organisme qui s'appelle Clinatech qui vise normalement à étudier la façon dont on peut faire servir les nanos notamment à la résolution des problèmes du cerveau. Hein. Et il y a toute une controverse sur la façon dont sont faits ces tests et expériences. Les opposants locaux dénoncent beaucoup la façon dont des gens sont instrumentalisés au bénéfice de cette médecine. Bon, et puis alors, par exemple, dans le débat public au sujet des nanos, vous aviez une question cruciale qui était, est-ce que par toute cette médecine de demain très très sophistiquée, on va pas en permanence soigner par la technologie des maux créés par la technologie elle-même, hein, question récurrente posée à la médecine, c'est-à-dire que les maladies d'aujourd'hui, hein, celles qui font décliner, qui risquent de faire décliner l'espérance de vie aux États-Unis sont par exemple l'obésité, la malnutrition, etc., sont des maladies de civilisation. Hein. Donc est-ce que on n'est pas en train d'une sorte de course à la surenchère technologique, finalement, qui est perdue d'avance, hein, et que les nanos ne vont faire que renforcer. Bon, après, vous avez tout un tas de problématiques émergentes. Hein. On concite souvent, par exemple, vous avez, grâce aux nanotechnologies, la possibilité, on fera des petits robots, hein, qui, par exemple, se baladeront dans nos artères et seront capables d'attaquer telle ou telle cellule, hein, de façon quasiment autonome. Est-ce que ça ne va pas poser tout un tas de problèmes nouveaux, inédits, de responsabilité, hein, en cas de perte de contrôle de ces robots, etc., etc. Bon, voilà, un certain nombre de questions qui se posent dans le champ médical, qui ne sont peut-être pas les plus urgentes, hein, mais qui encore vont se retrouver progressivement. Bon, l'informatique et les télécommunications. Un exemple parmi d'autres, celui de ces puces RFID, hein, qu'on dote de plus en plus de nanotechnologies, qui visent, vous le savez, à transmettre tout un tas d'informations, hein, de façon très fiable sur un certain nombre de produits, ne vont-elles pas également créer des problèmes tout à fait inédits et procurer sur les individus tout un tas d'informations qu'il aurait été préférable de garder secrètes. Hein. Bon, vous savez qu'il est dans l'intérêt globalement des industriels, notamment, de doter il est dans l'intérêt des industriels et des vendeurs, globalement, d'avoir le plus d'informations possible sur les usages des gens, hein, de façon à pouvoir les adapter le plus possible et à pouvoir cibler des types de consommateurs. Hein. Donc, il y a une certaine pression qui se fait pour munir de puces RFID le plus de produits possibles. Hein. Par exemple, si vous munissez d'une puce RFID telle nourriture que vous aurez achetée, elle sera possible à terme, hein, vous savez, par exemple, de communiquer avec votre réfrigérateur pour lui donner des informations sur la façon dont elle est périmée ou la façon dont elle vient à manquer, etc., de sorte que le réfrigérateur vous incitera lui-même directement via le relais de votre portable à aller faire vos courses, etc., et vous trouverez un relais dans le supermarché pour vous indiquer quoi chercher, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui seront possibles demain, qui viseront à automatiser tous nos modes de consommation. Hein. Alors, le problème, c'est que faisant ça, évidemment, la puce va donner des informations sur vous, ce qui peut se révéler notoire. Vous avez déjà eu aux États-Unis des histoires de gens qui, par exemple, se sont fait repérer par des employeurs comme étant séropositifs, tout ça parce qu'ils avaient dans leur sac des médicaments contre le sida dont l'emballage était muni d'une puce RFID. Hein. Donc, vous comprenez qu'un certain nombre de questions de vie privée, d'atteinte à la vie privée, vont se poser de façon tout à fait cruciale, hein, si on a la multiplication de ces puces. Alors, vous avez toujours la possibilité aujourd'hui de rendre ces puces désactivables. Le problème, c'est ce que demandent les associations de consommateurs. Le problème, c'est que ça a un coût. Hein, la puce désactivable coûte un peu plus cher que la puce qui ne l'est pas. Donc on se retrouve assez rapidement dans des conflits entre l'efficacité économique et puis le respect de l'éthique ou de la vie privée. Hein, c'est ce domaine que... Alors jusqu'à présent, on n'a pas, disons que la vision des consommateurs a plutôt quand même prévalu et que une certaine barrière qui a été mise au développement à outrance de tous ces processus, mais c'est une tension permanente. Hein, l'intérêt des uns est en conflit avec celui des autres sur ces questions-là. Bon, et alors, voilà, donc tout cela, notamment pour les opposants, risque de nous faire entrer dans un monde où la vie privée n'aura plus vraiment de signification, hein, un monde de on retrouve les visions que j'évoquais tout à l'heure, hein, de surveillance généralisée, hein, pourquoi pas, parce que vous savez aussi que les nanos vont nous permettre des dispositifs de surveillance tout à fait inédits, qui seront développés dans le domaine militaire. Hein, on a beaucoup parlé de la smart dust, hein, la poussière intelligente, hein, ces sortes de nano-espions disséminés comme ça facilement et susceptibles de donner des informations. Des technologies qui sont développées pour le domaine militaire, mais qui, pourquoi pas, seront à terme utilisées aussi pour des populations civiles, notamment en temps de guerre. Hein. Donc ne va-t-on pas là passer des étapes tout à fait nouvelles ? C'est ce que mentionne notamment en France la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait aussi la barrière de l'invisibilité. Hein. Jusqu'à présent, tous ces mécanismes étaient quand même plutôt micro que nano. Ils étaient encore visibles. Quand sera-t-il lorsqu'ils seront devenus objectivement invisibles et que nous pourrons vivre dans un monde où on n'aura pas de façon simple de savoir si nous ne sommes pas espionnés, si nos conversations ne sont pas diffusées, relatées ailleurs, etc. Hein, on n'aura plus du tout ce droit au silence, à l'oubli qui paraît quand même fondamental, constitutif de notre être au monde, quoi. Hein. Donc voilà, de nombreuses questions, donc des questions d'éthique, hein, mais qui risquent de devenir concrètes quand même dans les années à venir, sachant que les RFID de taille nanométrique, on va y arriver, hein, progressivement. Hein. On sait déjà en faire de différents types. Hein. On est capable, je crois, de disséminer dans les forêts, par exemple, hein, des puces tout à fait invisibles qui vont continuer pendant des années à donner des informations sur l'état des sols, des végétaux, etc. etc. Hein. Donc voilà. Alors, le domaine des applications militaires est évidemment, lui aussi, un domaine de grandes inquiétudes. Et alors, d'autant plus qu'il est évidemment un domaine d'investissement massif. Hein, c'est là que vous trouvez les plus gros budgets en termes de nano aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Hein. On entend beaucoup des nanotechnologies pour équiper le soldat du futur, hein, qui sera pucé, qui aura des capteurs pour en permanence renseigner sur son état biologique, sur sa fatigue, son bilan sanguin, etc., pour communiquer. qui aura sans doute un exosquelette pour le renforcer, qui aura des combinaisons touchant parfaitement au corps pour le protéger des balles, etc. Et puis qui bénéficiera d'hybridation entre les systèmes électroniques et les systèmes vivants. Hein, vous savez qu'on a beaucoup parlé de ces. On sait greffer par exemple des dispositifs électroniques sur des larves d'insectes, hein, de telle sorte que par exemple lorsque des scarabées se développent, en fait, ils ont dans leurs ailes et dans leur système nerveux des choses qui permettent presque de les piloter à distance, du moins d'influer sur leur vol. Hein. Donc les militaires attendent énormément de ce genre de choses, hein, qui vont devenir des petits drones facilement utilisables, etc. Bon, avec tout un tas de problématiques éthiques. Alors, a-t-on le droit de faire ça à des animaux, hein, question numéro 1. Hein. Ces domaines de surveillance, voilà, a priori réservés au domaine militaire, risquent dans les faits d'être utilisés même pour des populations civiles. Rupture de la dissuasion mondiale, ça c'est un enjeu qui a été pas mal discuté, hein, c'est-à-dire que vous savez qu'on vit sur une sorte d'équilibre dans lequel l'arme nucléaire est dissuasive, hein, une sorte d'équilibre de la peur, de la terreur. Est-ce que si on développe des armes plus efficaces, nanotechnologiques, on va pas rompre cet équilibre, hein? Certains pensent même que l'arme atomique va être reléguée au rang d'antiquité, hein, devant les nouvelles armes nanobactériologiques, notamment, que nous pourrons développer. Hein. Voilà. Bon, et puis juste passant, petite chose qu'on mentionne quand même assez souvent, hein, c'est sûr que si vous faites la part au niveau mondial des budgets consacrés aux efforts de paix et des budgets consacrés aux efforts pour développer les armes, en particulier nanotechnologiques, vous verrez un déséquilibre majeur dans le domaine du développement des armes. Hein, ça, c'est une question éthique en tant que telle. Bon, alors, donc voilà, toutes ces sortes d'effets, et même au-delà des sortes d'effets presque métaphysiques, hein, certains philosophes, notamment, ont mentionné quand même la façon dont, globalement, avec le développement de tout ça, nous allons progressivement reconstruire la nature, progressivement diffuser dans la nature un peu partout des choses qui seront des machines, qui seront reconstruites par la vision de l'homme, à tel point que peut-être à terme, des catégories fondamentales, comme celle de la nature extérieure, par exemple, et de l'être humain, vont finir par disparaître, se brouiller. Hein. Si on ne rencontre plus à l'extérieur qu'un monde que nous aurons nous-mêmes créé, nous allons nous perdre ce référent qu'a toujours été pour nous le monde extérieur, la nature, etc. Donc, une sorte d'effet presque métaphysique, hein, ontologique, qui se décline, c'est un philosophe français, notamment Jean-Pierre Dupuis, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui se décline sur différents domaines, mais qui tourne toujours autour de ça, le brouillage des catégories, hein, notamment aussi le brouillage entre ce qui est vivant, ce qui est inerte, etc. Bon, alors, peut-être un petit moment sur l'exemple du débat public national en France. Oui, donc je pense que toutes les questions juridiques, la façon dont on encadre les nanos, elles vont être abordées, hein, dans la suite des conférences. On essaie par la régulation aujourd'hui, notamment en France, d'y voir plus clair quand même. Il y a une obligation de déclaration et de suivi qui vient d'entrer en vigueur en France. Mais je pense que... Alors, je n'ai pas vu, mais... je ne sais pas. Bon, des gens vont en parler. Simplement, donc, un petit mot sur le débat public. Donc, en France, hein, un débat public national a été organisé en 2009-2010 sur la question des nanotechnologies. Bon, avec le enjeu, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à la fois, on en attend beaucoup sur le plan économique. Hein, vous savez que, par exemple, dans ce fameux rapport Gallois qui a fait tant de bruit il y a quelques mois, on attend des gains en compétitivité de la France, entre autres par le développement des nanotechnologies. Hein. Les gaz de schiste aussi, mais aussi les nanos, hein, qui sont vus comme un domaine majeur, sachant que, de toute façon, du point de vue industriel, vous savez que le train, on l'a déjà largement perdu. Hein. Au niveau mondial, l'Europe est dans le quart monde des nanotechnologies. Hein. Elles sont développées essentiellement aux États-Unis et en Asie. Hein. Et puis, comme le Japon, la Corée du Sud, etc., sont très avancés. Donc, besoin de se développer. En France, on est très fort en recherche théorique. Hein. On a de nombreuses publications, très bien classées au niveau mondial, mais gros manque de brevets et d'applications industrielles. Donc, voilà, attentes économiques et en même temps incertitudes concernant les risques, tout l'aspect sanitaire. Donc la réponse trouvée par le gouvernement, c'était l'organisation d'un débat national. C'est quelque chose qui avait été demandé en fait Excusez-moi, là, j'ai plusieurs choses. C'est quelque chose qui avait été demandé lors du Grenelle de l'environnement. Hein. Une association, notamment l'association FNE, hein, France Nature Environnement, avait obtenu le principe de l'organisation d'un tel débat. Sachant que si, en même temps, si on n'avait pas discuté de ça, les nanos continuent à se développer comme partout ailleurs dans le monde, avec ce risque à terme d'incidence, notamment sanitaire majeure. Hein, donc des associations écologistes, notamment, sensibilisées à la question-là, disent qu'il faut absolument qu'on en parle, et une bonne façon d'en parler est d'organiser un débat. Hein. Alors, le problème est que ce débat, et la raison principale en est qu'il couvrait tellement d'enjeux, et il était tellement complexe qu'il était quand même dur à mettre en œuvre, ce débat a été un gros fiasco, hein, quelques critères. Hein, c'est que sur 17 réunions qui étaient prévues, 7 ont été perturbées et 2 ont été annulées. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a été très perturbé par donc, des opposants à cette question des nanos, se réclamant d'une association, enfin, entre autres, d'une association qui s'appelle Pièces et Mains d'œuvre et qui est très active, notamment dans la région qui est originaire de la région de Grenoble. Hein. Alors, voilà, donc il était question de discuter a priori des questions de nano et de populariser les problèmes se posant. Et dans les faits, en tout cas, on n'a pas pu discuter énormément. Hein. Ça, c'est indéniable. Alors, si on essaie de se demander quand même pourquoi... Pourquoi il était nécessaire qu'un débat comme ça, un peu capote ? Bon, déjà, c'est une formule très particulière, ces débats de type CNDP. Hein. En France, vous avez une commission qui est chargée d'organiser des débats publics, qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Et les débats de ce type, a priori, sont censés amener à des décisions. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit pas, a priori, il ne s'agissait pas uniquement d'informer les gens et de poser des questions, il était aussi question d'aller vers des décisions. Hein, le ministère, à l'issue de débats de ce type, doit notamment donner des décisions. Alors, pour la petite histoire, on a attendu jusqu'à très récemment les décisions étant sorties de ce débat. Normalement, le ministère doit donner dans les 3 mois à la fin du débat sa décision. Là, près de 2 ans après, la décision n'était pas toujours donnée. Hein. Ça a été un des points difficiles du débat parce qu'on avait le sentiment, et de nombreuses personnes ont eu le sentiment, que de toute façon, les décisions étaient déjà prises. Hein, et que notamment des budgets conséquents étaient déjà alloués aux nanotechnologies. Hein, vous aviez notamment des plans nationaux, un plan qui s'appelle Nano Innov, notamment 75 millions d'euros, qui étaient déjà votés. Vous avez en France, hein, vous avez ce fameux organisme Minatech hein, à Grenoble, qui est un des organismes de recherche les plus avancés en Europe hein, sur la question de l'électronique notamment. Donc les décisions étaient déjà prises, ça a été une des difficultés du débat. Bon, j'en ai mentionné un certain nombre de difficultés, de choses qui de toute façon ont rendu les choses très compliquées. La grande méconnaissance du public. Je ne sais pas combien de temps il me reste, là. Est-ce que je peux... Bon. Bon, grande méconnaissance du public. Globalement, les gens restent très ignorants de ces questions de nano. Le débat n'a pas changé grand-chose à ce niveau. Très ignorant et plutôt positif finalement. Hein. Si vous comparez, je pourrais vous montrer des sondages, hein, si vous comparez avec ce qui se passe dans le domaine du nucléaire ou dans le domaine des OGM, les gens sont globalement beaucoup plus inquiets de ça que de ce qui peut venir en termes de nano. C'est pas la même chose pour les gens qui connaissent un peu plus. Les experts sont plus inquiets, hein, mais le grand public reste globalement très ignorant et plutôt optimiste. Hein. Bon. Le public n'était pas venu au débat, ça c'est un autre problème. On veut faire discuter les gens, mais globalement, on ne les a pas assez informés pour qu'ils viennent même au débat. Donc ceux qui viennent au débat, c'est essentiellement les opposants, en fait. Hein, ça, c'est une autre difficulté. Bon, et à côté de ça, il y avait des pré-cadrages du débat qui étaient de toute façon difficiles. Hein, j'en mentionnerai juste un, par exemple, c'est que la France elle-même attendait de ce débat de promouvoir sa parole au niveau européen. Hein, sachant qu'une des difficultés est que si vous voulez vraiment légiférer sur une nanotechnologie, si vous voulez interdire certains produits, exiger des études, etc., vous ne pouvez le faire aujourd'hui qu'au niveau européen. Un État seul ne peut pas faire grand-chose. Donc une des raisons pour la France d'organiser ce débat, c'était de pouvoir dire au niveau européen, regardez, nous avons chez nous une opinion publique qui s'émeut des conséquences des nanotechnologies, il faut absolument agir au niveau européen. Hein, et en particulier au niveau de la Commission européenne, qui pour le moment a été très très prudente. Alors le problème, c'est que si vous dites ça, vous instrumentalisez le débat. C'est-à-dire que quoi qu'il se dise au débat, il sera utile pour promouvoir cette parole au niveau européen. Et malgré tout, c'est des choses que les gens finissent par comprendre et ils se demandent, mais à quoi ça sert que je vienne dans un débat, hein. Ça, c'est une des difficultés nombreuses qui explique le capotage de ce type de débat. Bon. Au final, hein, pour conclure, la situation du débat public, je pense qu'elle est restée, elle est restée déjà ce qu'elle était. Elle n'a pas énormément changé au jour d'aujourd'hui. Hein. Il y a une grande urgence de régulation, on va vous en parler. Il y a des efforts qui sont faits notamment par la France, hein, avec des législations qui sont uniques au monde et qui vont quand même donner des exemples, ne fût-ce qu'à nos partenaires européens. Hein. Et à côté de ça, vous avez au niveau mondial une telle pression pour le développement des produits que de toute façon, on reste dans un domaine de grande incertitude, hein, avec les recherches sanitaires, etc., qui vont de toute façon beaucoup moins vite que le développement des produits. Bon, voilà. Merci à vous.
Alors, ceux qui ont parlé veulent prendre la parole. C'était une petite boutade. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et très clair. Donc la parole est à la salle. Est-ce que ça suscite des questions? Allez-y, pardon, excusez-moi. Merci.
Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre introduction qui était très intéressante. J'ai deux questions en fait. Est-ce que selon vous, on ira un jour vers cette convergence homme-machine dont vous avez parlé au tout début? Votre point de vue personnel.
Bon, ce qui est évident, c'est qu'on va, on va de plus en plus se doter de enfin, l'homme. Vous savez qu'il y a ces différentes échelles, hein, l'homme réparé, modifié, augmenté. Hein. On est déjà à l'homme réparé, on va aller rapidement à l'homme modifié. Ça, je pense que ça va se faire. Hein. Bon, vous savez que les gens qui travaillent là-dessus mentionnent que ça va parfois d'ailleurs se faire par des petites choses. Hein, c'est-à-dire que lorsque les cœurs artificiels seront devenus vraiment efficaces, à la cinquantaine, plutôt que de se payer une nouvelle voiture, on va se payer un cœur artificiel. Et puis progressivement, des membres artificiels risquent de devenir quand même plus performants que les membres réels et que va se faire une pression comme ça de substitution. Hein, vous savez qu'il existe déjà, on en a entendu parler récemment, des athlètes dotés, etc. On a entendu. Bon. Donc je pense que ça va venir par des petites choses comme ça et que on va se réparer, se modifier de plus en plus. Après, je pense que transférer nos contenus mentaux sur des supports informatiques, etc., ce genre de choses, il y a des impossibilités théoriques à ça, hein, des impossibilités théoriques. Et alors, de toute façon, là, après, ce paradigme de réductionniste qui aurait quand même besoin pour se faire de faire le lien direct entre la connaissance de la physiologie du cerveau et puis la connaissance des états mentaux, qui est très, 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 très compliqué. Ça, je ne peux pas vous dire si on arrivera un jour à déduire de l'organisation de nos synapses et de la connaissance parfaite de ça, notre contenu mental. Hein, ça, la thèse déterministe le dit. Enfin, en tout cas, on n'en est pas encore là. Hein, voilà.
Et la deuxième question, c'est est-ce que, d'après vous, les scandales sanitaires ne sont pas de toute façon inévitables? On l'a vu avec l'amiante, vous en avez parlé, mais il y en a beaucoup d'autres dans d'autres secteurs. Et notamment celui des nanotechnologies.
Mais ça, vous avez tout à fait raison. Et en plus, alors, les nanotechnologies sont une question parmi toutes celles qui se posent à la question d'aujourd'hui. Il est évident que nous allons avoir des problèmes de santé majeurs du fait des phtalates, du fait des pesticides, du fait des OGM, etc., bien avant de les avoir du fait de l'usage des nanotechnologies. Hein, c'est évident. Les nanomatériaux vont venir se rajouter à tout un tas de substances chimiques qui existent déjà et qui vont dégrader progressivement notre santé et notre environnement. Ça, c'est indéniable. Bon, alors après, est-ce que grâce au... Bon, des problèmes sanitaires vont se poser. Est-ce qu'on sera en mesure de les surmonter? Ça, c'est une question ouverte. Hein. L'usage des Bon, des améliorations dans l'alimentation, quand même, nous ont malgré tout, jusqu'à présent, permis de gagner en espérance de vie. Alors, est-ce qu'on a gagné en qualité de vie ? C'est une question éternelle. Hein. On a gagné en espérance de vie. Est-ce qu'on a gagné en qualité de vie ? On devient malade de façon de plus en plus précoce, mais en même temps, on guérit mieux les maladies. Bon, cette course va continuer. Hein. Est-ce que les nanos elles-mêmes vont permettre de surmonter les scandales sanitaires à venir ? C'est ce que certains espèrent. Hein. Je n'ai pas la réponse à cette question. Elle est ouverte. Hein. Mais des scandales sanitaires vont probablement arriver, ça c'est évident. Et surtout dans la mesure où il est très peu probable qu'on puisse, par une régulation quelconque, parvenir à limiter ça. Et on pourra très difficilement, une fois encore, hein, parvenir par une connaissance des effets à limiter également les effets. C'est-à-dire qu'on réalise, bon, c'est juste une petite chose que je voulais dire, mais vous le savez peut-être déjà, hein, que c'est très compliqué d'anticiper la destinée et l'action d'une nanoparticule. Hein, ça dépend de tout un tas de paramètres. Une même nanoparticule placée dans des milieux très différents peut avoir des usages très différents. Et donc, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Hein, qu'elle soit présente dans une matrice ingérée, etc., ne nous dit pas forcément ce qu'elle va devenir, les genres d'effets qu'elle va avoir dans notre organisme, etc., etc. Et la connaissance extrême de tous ces paramètres est quasiment impossible, en fait. Hein. Il faudra des décennies pour être capable. Même ici, initialement, je crois que l'OCDE s'était donné 60 paramètres. Actuellement, les experts sont revenus à 7 ou 8 paramètres, hein, permettant de bien déterminer, qualifier une nanoparticule. Mais la connaissance exacte de la façon d'influer ces paramètres, sachant qu'il y a un nombre de molécules elles-mêmes très différents, hein, rien que pour les nanotubes des centaines d'espèces, c'est illusoire de penser avoir une connaissance précise des effets de chacune et donc d'avoir des visions claires des effets sanitaires de tel ou tel produit. Bon. C'est un peu une expérience. Hein. Là, objectif, ce que disent beaucoup de gens, on est plongé dans une expérience, hein, qui sera faite un peu sur nous.
Oui. Alors, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a déjà eu, au niveau de la réglementation, des produits qui étaient commercialisés à base de nanotechnologie qui ont été retirés du marché ? Et est-ce qu'il y a aussi des lois, donc vraiment, dans les nanotechnologies qui, pour les interdire, pour vraiment réglementer ? Vous avez parlé tout à l'heure de la recherche de la taille minimum d'une particule, etc. Est-ce qu'il y a finalement un écrit quelque part ? Ou par exemple, pour les pacemakers, vous disiez tout à l'heure, enfin, les cœurs artificiels, est-ce qu'il y aura une loi qui dit, si vous avez un cœur en bonne santé, vous n'êtes pas vraiment malade, vous n'aurez pas le droit d'en avoir un à base de nanotechnologie ou quelque chose comme ça pour préserver un peu le côté nature, pour éviter justement que ça des débordements.
Oui, alors il y a de nombreuses questions là en même temps. Hein. Il doit y avoir un exposé en fait, hein, sur les aspects juridiques. Hein, donc je vais peut-être pas trop me développer. Bon, je pense que la transformation, le transhumanisme, etc., il est en tout cas condamné par la plupart des instances qui se sont posées là-dessus. Donc des régulations, je pense qu'elles arriveront, on aura sans doute des régulations, elles arriveront progressivement lorsque ces choses-là se développeront. Hein. Je pense que la régulation pour les enjeux de fond comme ça, hein, la transformation de l'homme, etc., je pense qu'au cas par cas, des régulations viendront. Hein. Alors, ce qui s'est déjà passé aujourd'hui, juste pour reprendre un petit aspect, c'est qu'il y a déjà eu des controverses sur le fait de savoir si une substance était produite à l'état nanoparticulaire ou pas. Hein. Vous avez aujourd'hui des réglementations sectorielles, vous avez des réglementations concernant les cosmétiques, concernant l'alimentaire, concernant d'autres produits, ce n'est pas toutes les mêmes. Il y a les enjeux il y a des règlements européens qui s'appliquent, hein, ce fameux règlement REACH qu'on essaie d'adapter aux nanotechnologies, mais qui se fait trop lentement pour certains. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est de savoir dire cette substance est à l'état nanoparticulaire ou elle ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a des contentieux juridiques à cette question-là. Je crois qu'il y a eu des récents exemples, hein, où des crèmes avaient été vendues comme étant à base de choses qui n'étaient pas nanoparticulaires. Des associations pensaient qu'elles l'étaient, et il y a contentieux juridique à ce sujet. Hein. Et dans des exemples récents, on a fini par reconnaître que des choses avaient été vendues comme n'étant pas à l'état nanoparticulaire, alors qu'en fait, elles l'étaient. Mais les contentieux les plus proches, ils viendront sur ce genre de choses.
Mais une fois que ça a été dit que finalement elles contenaient des nanoparticules, est-ce qu'elles ont été retirées du marché ou elles étaient quand même sur le marché en ayant la mention nanoparticules?
Ce vers quoi on va, mais je pense que des gens en parleront, c'est vers un étiquetage en fait, hein, dans le domaine des nanoparticules. Donc elles ne sont pas interdites en tant que telles, hein, elles ne sont pas du tout interdites en tant que telles. On n'a pas aujourd'hui assez d'informations claires sur la nocivité pour interdire certains produits. Enfin, tout du moins, c'est la vision de l'exécutif actuellement. Hein. C'est qu'on est en attente d'informations sur la nocivité pour prendre des mesures radicales contre l'usage des produits. Hein. Et ce vers quoi on va sans doute vers un étiquetage, hein, notamment dans le domaine des cosmétiques. Hein, c'est-à-dire, au moins, le produit ne sera pas interdit, mais vous pourrez savoir sur la boîte s'il est nanoparticulaire ou pas. Mais c'est déjà un enjeu de savoir comment le savoir, en fait.
Mais le problème, ça sera de le lire, comme toutes les étiquettes. Alors,
bien sûr. Ça fait reposer la responsabilité sur le consommateur.
Voilà, exactement. Se lire avec une loupe, comme on le fait actuellement. Donc, vous avez des questions, les messieurs du fond? Non? Voilà. Non, il n'y a pas de questions. Donc, la dernière, alors, hein, parce que...
Merci pour cette présentation. Juste une petite question... Les nanotechnologies pourront-elles agir sur les gènes? Si oui, est-ce qu'on envisage faire de l'homme un immortel?
Pourquoi pas? Bah, on envisage, certaines personnes l'envisagent. Hein. Vous savez que ces tenants, hein, du transhumanisme là pensent qu'effectivement, une des ambitions, c'est de nous faire immortels. Hein. Ce Rekordsweil dont je vous disais quelques mots absorbe, je crois, plus de une trentaine de pilules par jour dans l'idée d'accroître sa propre longévité, hein, et pense que le destin de l'humanité est d'aller vers l'immortalité. Hein. Bon, alors, vous imaginez le nombre de problèmes insurmontables que ça pose, hein, la surpopulation, l'ennui, tas de choses, savoir si c'est souhaitable ou pas. Bon, en même temps, en termes éthiques, on ne pourra jamais expliquer aux gens qu'il faut accepter d'avoir moins de vie, en quelque sorte. Hein. Je pense que la notion de vie, elle s'impose avec tellement d'évidence qu'on voudra toujours plus de vie que moins. Hein. Bon, on peut discuter longtemps. Mais alors après, pour vous dire si on est capable, si on a la connaissance biologique aujourd'hui de ralentir le vieillissement au niveau de nos gènes, etc., là, je ne suis pas assez qualifié pour le dire. Est-ce que le génie génétique arrivera à vraiment agir sur notre processus de vieillissement? Ça, je pense qu'on y va progressivement, hein, mais je ne peux pas vous répondre. De toute façon, je ne connais pas assez la question biologique propre.
Voilà. Merci, monsieur Dorido. C'était parfait, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci à tous.
Donc, on va... Merci à vous pour vos questions. On va passer à la seconde intervention. Tout d'abord, je voulais remercier... Madame Texera Calvacante d'avoir accepté de remplacer au pied levé Stéphanie Lacour, qui est une habituée de la maison. Donc, c'est très, très gentil à vous. Donc, en effet, vous avez posé des questions sur le droit. En effet, il y a le droit qui se penche sur ce sujet très, très vaste et complexe des nanotechnologies. Donc, je ne sais pas si le titre a changé, mais c'est « Quelle régulation pour les nanotechnologies ?» Donc, je vais vous présenter. Vous êtes avocate de formation au Brésil. Docteur en droit de l'Université de Limoges et vous avez été postdoctorante CNRS au sein du SECOJI de l'Université de Poitiers dans le cadre du programme Nanonorma, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes associée à ce centre de recherche, vous exercez ses activités au centre de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, RFB, où vous menez une étude sur le statut juridique des ressources génétiques français. Vos domaines de spécialité sont le droit de la biodiversité, le droit des nanotechnologies, le droit des peuples autochtones et des propriétés intellectuelles. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez trois quarts d'heure. À tout à l'heure. Merci à vous. Pardon, j'espère que ça va marcher, le
passionnant la présentation, oui, préalable. Comme Madame Bonnefoy vous a informé. Je viens substituer, enfin remplacer Madame Lacour, qui est irremplaçable. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de l'entendre, mais elle est vraiment exubérante et d'une grande, grande compétence en la matière. Sinon, la plus grande, en fait, juriste en la matière, en droit des nanotechnologies. Donc, remplacer, je ne peux pas le faire, vraiment, en fait, mais je ferai de mon mieux, surtout parce que j'ai eu 48 heures pour faire la présentation, et aujourd'hui, en plus, je sors de mon congé maternité, donc j'ai un tout petit bébé, donc c'était un peu un challenge. Mais c'est très bien de revenir à la maison, en fait. Moi aussi, j'ai fait partie de presse, en fait, j'ai assisté à des... ici même à l'université de Poitiers, j'ai effectué ma thèse à Limoges sur le droit de la biodiversité et j'habite à Poitiers, donc du coup j'ai assisté ici à plusieurs formations et juste après j'ai débuté mon post-doctorat à l'université de Poitiers aussi, même si j'étais basée au CNRS à Ivry en fait, donc c'était sur les nanotechnologies. Je vous dis ça, pourquoi ? Enfin, parce que j'ai fait ma thèse sur la biodiversité, donc je me suis dit, le droit de la biodiversité, des nanotechnologies, allez, c'est très complexe, mais la biotechnologie a, d'une certaine façon, quelques éléments, en fait, qui sont assez semblables aux nanotechnologies. Donc, je me suis dit, je vais travailler dans cette matière, je me sentais assez compétente pour cela, et en y arrivant, je me suis dit, c'est un tout petit peu plus complexe de ce que j'imaginais, en fait, et beaucoup plus que la biotechnologie en soi. Et aujourd'hui, je me retrouve à parler devant vous sur cette matière-là, même si je suis revenue entre-temps dans le domaine de la biodiversité. Voilà. Donc, on va analyser aujourd'hui. J'avais préparé, en fait, avec Stéphanie, parce qu'on a parlé, en fait, pendant ces deux jours, sur la présentation, et j'ai fait la présentation dans le sens qu'elle avait défini. Donc, ce n'est pas elle, mais au moins la présentation, ça ira dans son sens. Donc, on a déjà vu de façon brillante l'historique, en fait, des sciences. Donc, on a Feynman, 1959, donc c'est des technologies, sciences-technologies émergentes, donc le droit a tout intérêt à y travailler. On a eu, ça c'est atteint en 1959, après en 1974, il y a eu la première fois que ça a été utilisé le terme nanotechnologie, avant même d'avoir été visualisé par le télescope, microscope à effet de tunnel, ces substances, en fait, les nanoparticules. Donc, on a eu après le fullerène qui a été découvert, et Samley, plus d'autres scientifiques ont eu un prix Nobel grâce à cela. On a eu Dexler en 86, donc on a eu justement une présentation sur ce monde, en fait, ce monde idéal, ce monde transformé par les nanotechnologies, par ces technologies, en fait, convergentes. On a eu des promesses qui ont été exaltantes, ou même délirantes, si on ose dire, c'est ça. Est-ce qu'on va arriver, en fait, à ce monde idéal où l'homme pourra remplacer son cœur, aura amélioré ses qualités, en fait, physiques, et même peut-être en termes intellectuels. On a plusieurs domaines, on a déjà vu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, on a eu aussi avec la NNI, la National Nanotechnology Initiative, beaucoup d'argent aussi qui a été destiné à ce domaine. Et on a eu dans ce rapport, qui vient d'être d'ailleurs décrit, ce monde idéal, dans l'unification, le monde idéal, où il n'y aurait pas plus de problèmes environnementaux. Donc on a déjà traité de ça ce matin. Donc pourquoi c'est important, en fait, simplement de citer ? Parce que s'il y a des promesses exaltantes, délirantes, on a aussi des peurs. Ça a été justement la question que votre collègue a posée. Des peurs qui peuvent être délirantes aussi, parce qu'il ne faut pas être entré non plus dans la sinistrose, mais il y en a des peurs qui sont tout à fait justifiées, parce que nous avons eu des cas de catastrophes sanitaires, en fait. On a le cas de catastrophes nucléaires, on a eu Tchernobyl, Juste avant, on a eu le Bhopal. Donc, c'était une usine en Inde qui a explosé, une usine des pesticides, et plusieurs milliers de personnes ont été mortes et d'autres qui ont été contaminées. Ça a été vraiment une énorme catastrophe. Ça a été un 84, Tchernobyl 86. On a eu aussi l'amiante, qui même jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes avec l'amiante, et qui tout au long du siècle dernier, et même avant, en fait, au siècle XIX, on avait déjà alerté sur les capacités, enfin, sur la toxicité de l'amiante, en fait. Et à cause de lobbying existant, il n'a pas été interdit, en fait. C'était qu'en 96 qu'il a été interdit en France. Donc, élément qui cause plusieurs problèmes pulmonaires, surtout le cancer. Donc, on a aussi récemment le gaucho, qui est un pesticide qui a connu un moratoire par rapport au tournesol et au maïs, parce qu'il désorientait les abeilles. Donc, il y avait eu une grande mortalité, en fait, des ruches, enfin, des abeilles en France. Donc, il y avait eu plusieurs associations de producteurs, en fait, de miel qui se sont réunies. Et on a réussi, finalement, à avoir un moratoire là-dessus. Donc, c'est des questions qu'on traite aujourd'hui dans le cadre de développement durable, en essayant d'avoir un équilibre entre les apports économiques et sociaux aussi de ces technologies, parce que c'est écologique, mais aussi les dangers en fait qu'elles peuvent engendrer. Donc il y a un équilibre à trouver. Donc le développement durable, même si ça s'est gribouillé là, c'est justement la difficulté qu'on a de traiter de ces questions. Donc les nanotechnologies, comme on a vu, sont des technosciences. C'est une nouvelle technologie. Elle n'est pas qu'une science, elle n'est pas qu'une technologie. Avant, on séparait la science de la technique. La science, la méthode, c'était contemplative, donc on ne traitait pas effectivement, c'était pas opératoire, c'était une recherche qui n'était pas applicable, c'était pas la vision, en fait, l'objectif. C'était non opératoire et contemplative. Tandis que la technique, non, elle était pratique et elle était opératoire. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y en a, on est passé à un stade où, bien sûr qu'on a une phase préalable qui est théorique, mais cette phase préalable, elle n'est qu'un point en fait, de départ pour l'évolution en fait, de cette recherche qui est opératoire, c'est la phase opératoire. Donc on a aujourd'hui des technosciences. Et à partir du moment où cette finalité opératoire, elle devient une affaire d'État, parce qu'il y en a des risques à partir du moment qu'on a une opération, une application précise. Et ça change aussi quoi ? Qu'est-ce qui change ? Change aussi les formes de financement. Avant, c'était présent dans les universités. Bien sûr que les industries, elles en avaient, mais c'était le mécénat qui existait. Aujourd'hui, il y en a véritablement des programmes de recherche, des lourds financements qui sont déployés pour effectuer des recherches dans ce domaine-là. Et on voit, en fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais il y a des contrats chiffres, il y a des contrats entre partenariats publics et privés où il y en a justement ce lien. Donc, c'est un peu un mêlé aujourd'hui, la technique et la science. Et c'est une affaire d'État. Et le droit, il vient réguler tout ça. Donc, je voulais jouer avec le triple A, mais je ne sais pas s'il y a des économistes, on a le triple C, en fait, avec les nanotechnologies. Donc, c'est la complexité scientifique, la complexité technique, la complexité sociale. Donc, mais on peut rajouter, en fait, elle n'a pas perdu, non seulement elle n'a pas perdu le triple C dans ce cas-là, mais elle a rajouté un autre, parce qu'on a aussi une complexité juridique qui est issue, en fait, de toutes ces nombres de variantes, en fait, qui font que les nanotechnologies sont constituées en système complexe, comme dirait Edgar Morin, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on a une complexité juridique qui va se voir au moment de la définition, aux dédéfinitions des nanos. On a vu qu'il y en a plusieurs, donc on va traiter ici de la question de la définition. Donc, on parle de quoi au moment de la régulation ? La loi, elle ne peut pas dire les nanos, ça n'existe pas. Il faut que ce soit un objet identifié ou pas. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Et l'obligation, et ça a eu une complexité aussi, comment régulée. Donc l'État français, il a, je vais vous parler un peu plus loin, il a établi une obligation des déclarations des substances à l'État nanoparticulaire visant la mise sur le marché. Donc cette déclaration, en fait, elle est exigible depuis 1er 2013, donc c'est très très récent. Et la première déclaration doit se faire le 1er mai prochain, en fait, par les fabricants, les distributeurs et les importateurs. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, cette complexité et après la complexité juridique. Au niveau de la complexité scientifique, on a déjà vu, donc il y a une convergence des domaines des savoirs. Donc on a besoin de la physique, avec tout l'appareillage, on a besoin de la chimie, on a besoin pour des médicaments, par exemple, même pour l'application dans le milieu médical, de la biologie, des sciences de la vie de la Terre, des sciences de l'environnement. Donc, pour qu'on l'utilise partout, ben, il faut une convergence, en fait, de tous ces domaines de savoir, en fait, des connaissances. Et d'un autre côté, elle va être aussi utilisée dans tout, et donc ça c'est le zoo de flèche, dans tous ces autres ces domaines aussi d'activité, dans la médecine, la biotechnologie, l'instrumentation, l'environnement énergie et les matériaux. On a vu, en fait, d'ailleurs, j'ai fait mon post-doctorat, il y avait un partenariat, en fait, dans le post-doctorat, et j'ai effectué mon post-doctorat au sein de d'Arkema, en fait. C'était une industrie des chimies. Donc, c'est très particulier. Et là, on voit bien, en fait, les matériaux, en fait, ils sont des leaders, et ils ont plusieurs brevets, en fait, dans la matière, et ils sont des leaders dans la production des nanomatériaux, et ils produisent des nanotubes de carbone. Voilà, ça, c'est qu'une parenthèse. Donc, c'est appliqué dans le domaine des matériaux, énormément, aujourd'hui. Donc, ça, c'est une complexité scientifique. La complexité, en fait, technologique, on utilise partout, on a déjà vu. Donc, on a l'automobile, l'industrie automobile, la carrosserie, donc c'est plus léger, c'est plus résistant. Et d'ailleurs, il y a des fuselages d'avions aujourd'hui, parce que comme c'est des conducteurs, des excellents conducteurs, donc s'il y a dans le fuselage, quand il y a les éclairs qui frappent, ben, ça a une meilleure conductivité. Donc, il y en a plusieurs usages aujourd'hui qui sont faits. On a des vêtements, des textiles, donc là on a des vêtements intelligents des pompiers et aussi dans l'armée qui n'est pas utilisé que pour l'habillement, mais aussi dans les matériaux, enfin dans les instruments et aussi dans la recherche de corps parfait, de l'homme parfait qui ne fatigue pas, qui est un corps indestructible. Voilà, donc il y a toute cette aura un peu magique qu'il y a autour des nanotechnologies, mais qui sont aujourd'hui bien des recherches existent dans le domaine de la défense. Donc il y a le volet électronique, donc où on peut mettre une grande quantité d'informations dans de petits espaces, donc on parle même des iPod nano, etc. Mais enfin bon, là c'est le domaine électronique, batterie, des plastiques, donc on a des bouteilles qui sont faites et recouvertes en fait d'une pellicule, et donc ça empêche en fait de passer le gaz. Donc on maintient en fait la qualité des boissons gazeuses, par exemple, et c'est plus résistant et c'est plus léger. Et des médicaments, voilà, il y a des vélos, donc dans le domaine du sport, il y a même des vêtements, des natations qui sont faits, des combinaisons qui sont faites avec des nanotubes. Et là, ça a été cité dans la présentation précédente, outre que ces éléments, l'ascenseur lunaire, en fait. Voilà. C'est concours que la NASA avait proposé et qui c'était cet ascenseur à base de nanotubes de carbone. Et là, au centre de tout ça, on est montre, enfin, tout ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est qu'un nanomatériau qui c'est le nanotube de carbone. Ça veut dire que tout ça va être utilisé ou ça va être fait qu'avec ça. Je ne parle pas des nano-argent, des tuyaux 2, je parle que de nanotube. Donc imaginez un peu la gamme, ça se multiplie et ça, c'est vraiment. Il y a l'infiniment petit, mais il y a un usage infiniment grand, en fait, des nanotechnologies. Après, on a aussi les parties prenantes. Donc ça, on parle des complexités, mais il y a la complexité sociale. Ici, en 2011, ici même dans cette salle, j'ai fait une présentation dans le cadre de Nanoforum justement au moment de la discussion sur le décret d'application sur la loi Grenelle, qui est cette loi qui a en fait créé l'obligation de déclarer en fait des déclarations relatives aux substances à l'état nanoparticulaire. Donc on avait eu toute une réunion ici, un débat, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu une enquête publique qui avait été lancée par le ministère pour savoir obtenir en fait des informations sur les projets de décret. Mais je vais vous parler tout de suite, en fait, enfin, plus loin de décret d'application. Donc, toutes ces parties prenantes. Mais on voit des syndicats, parce qu'il y a des travailleurs qui entrent en contact. Je vous ai parlé de l'amiante. Mais l'amiante, il faut le dire, que les nanotubes de carbone, et ça a déjà eu des études toxicologiques, où il peut avoir le même effet que l'amiante dans le poumon. Voilà. Et donc, c'est dangereux de travailler avec, parce qu'ils peuvent aspirer, même s'il y en a aujourd'hui, c'est pas comme ça. On va pas produire des nanotubes de carbone dans une salle ouverte, non, c'est une machine assez fermée. Après, il y en a même des brevets qui ont été faits sur des appareils de conditionnement, en fait, des nanotubes pour qu'ils ne vasent pas, enfin, pour qu'ils ne s'échappent pas. Donc, mais il y en a un intérêt d'être informé, en tout cas, hein, et d'être protégé. Donc, il y a les syndicats, il y a les régions qui investissent aujourd'hui dans ce domaine, mais qui aussi veulent, par précaution, en fait, à adopter peut-être des mesures, d'informer son public, les citoyens. Il y a des instituts de recherche comme le CNRS. Enfin bon, il y a tout un tas d'agences nationales, gouvernementales et non gouvernementales intéressées dans la régulation, en fait, des nanotechnologies. Donc ça, c'est les parties prenantes qui ont déposé un cahier d'acteurs, hein, donc, au centre de la commission dans le débat national proposé par la Commission nationale débat public entre 2009 et 2010, dont ça a été question, enfin ça a été parlé et cité tout à l'heure. Donc imaginez, on peut gérer tous ces intérêts. Et le droit, pour ceux qui ne connaissent pas le droit, quel est l'objectif du droit ? Est-ce que vous savez, en fait ? Ouais, le droit, son objectif, c'est de maintenir l'ordre public, en fait, la paix sociale. Et comment est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire ? Parce qu'il y a des conflits interpersonnels. Et ces conflits, en fait, chacun a un intérêt, et des fois, il y en a un choc. Il faut qu'on décide, en fait, qui est-ce qui a raison. Donc, le droit, il vient intervenir quand il y a le conflit, pour réguler, pour résoudre ces conflits interpersonnels. Donc là, c'est un exemple pur de le besoin, de la nécessité de l'intervention du droit. Parce qu'on a tout un tas des parties prenantes d'intérêts absolument, des fois divergents, parfois convergents, mais des fois divergents, et qu'il faut réguler, en fait. Donc, au moment de l'adoption d'un décret, il faut s'asseoir autour d'une table. Il y a la question en plus scientifique qui empire la compréhension, en fait, de cette problématique, pour décider ce qu'on va faire. Voilà. Pour construire un modèle juridique, en fait, une régulation, un cadre normatif. Voilà. Donc, tout ça, les nanotechnologies beaucoup plus complexes que ma biotechnologie, tant aimée aussi. Enfin bon. Donc, on a un ensemble, en fait, des possibilités, qui est un ensemble diversifié. Donc, c'est un système complexe. Donc, il y a plusieurs systèmes. Et ils ont des interactions, en fait. Les interrelations qui existent, en fait, difficultent la compréhension, en fait, la prise des décisions, comme dirait Edgar Morin. Donc, le droit. Si vous avez vu que la nanotechnologie, c'est une science, une technique, et c'est une problématique complexe au niveau scientifique, technique et social, au niveau juridique, c'est pareil. Et ça rajoute un degré, en fait, des difficultés. Pourquoi ? Parce que le droit, comme je vous ai dit, c'est un ensemble des normes, en fait, qui vise à maintenir l'ordre public, à régler les problèmes interpersonnels, certes. Mais le droit est aussi un système complexe en soi. Voilà, donc on met deux systèmes complexes et on mixe et on donne la régulation des nanos. Ce système complexe, il est composé par plusieurs types de normes, en fait. On n'a pas que les normes juridiques qui doivent être prises en compte au moment de la régulation. On a des normes socio-économiques, des normes éthiques, comme on vient de voir, des normes techniques et des normes scientifiques. Toutes ces normes doivent être prises en compte au moment de la régulation. Et on doit aussi travailler parfois avec des normes qui se superposent, en fait. On n'a pas nécessairement une cohérence entre toutes ces normes. Voilà. Au niveau des normes juridiques, on a non seulement, on a aussi plusieurs niveaux. On a le droit national, certes, parce qu'elle est produite localement, mais elle n'est pas produite qu'ici, elle ne va pas être utilisée qu'ici ou commercialisée. Elle va aussi être commercialisée en Union européenne. Donc, il y a le droit de l'Union aussi qui va intervenir. Après cela, on a le droit international, parce qu'elle n'est pas censée rester qu'en Union européenne non plus. Donc, on a tout un tas de normes dont donc je vous ai parlé du décret. Qu'est le décret d'application? Pour voir l'historique au niveau du droit national qu'est par rapport à ces déclarations, c'est immense. Il y en a tout un tas de régulations qui doivent être cohérentes entre soi, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, il y en a à ces niveaux, et au-delà des niveaux des régulations qui vont attendre les nanotechnologies, on a aussi plusieurs types, branches de droit. Donc, il y a le droit de la responsabilité. On a en fait le dommage. En fait, s'il y a un dommage, qui est-ce qui va être le responsable? Responsable, ça peut être responsabilisé civilement, pénalement ou administrativement, si l'État il est en cause. Le droit du travail, je vous ai dit par rapport aux travailleurs, s'il y a une maladie professionnelle. Le droit de l'environnement, je vous ai parlé du décret, c'est justement issu du droit de l'environnement. Le droit de propriété intellectuelle. Et je vous ai parlé que mon post-doctorat avait été fait dans le domaine des brevets. Donc, c'était le programme Nanonorma. Il travaillait sur le cycle de vie du produit, en fait, depuis sa conception, l'innovation, jusqu'aux déchets. Donc, j'étais dans cet atelier-là. Donc, c'était le droit de propriété intellectuelle. Et moi, j'étais auprès de la responsable du secteur de développement, recherche-développement d'Arkema. Donc là, on voit... on n'est pas le quai de droit de propriété intellectuelle, de droit des brevets là-dedans. On a aussi le droit de la santé par rapport au TiO2 utilisé dans les crèmes solaires. S'il y a des problèmes en fait là-dessus, il y en a aujourd'hui, on n'a pas des réglementations aussi strictes sur ces produits. Mais on a des recommandations. Par exemple, les crèmes solaires, il y avait une recommandation de l'agence sanitaire française qui disait que quand la peau elle est lésée, il ne faut pas l'appliquer, en fait. Il ne devrait pas, parce qu'il peut avoir il peut rentrer, en fait, il peut outrepasser la peau. Et donc, on ne sait pas quels sont les effets. Ça peut avoir des lésions. Donc, dans ce cas-là, il y a le droit de la santé et le droit de la consommation. On a parlé d'étiquetage. C'est tout un tas de normes qui n'existent pas, en fait, pour l'instant. Je réponds déjà à la question. L'étiquetage n'existe pas. Et si ça a été question au début, aujourd'hui, en France, pour l'instant, ce n'est pas question. Et je donne un exemple de ce qui s'est passé en Australie, justement sur les crèmes solaires. Il y en avait eu les Amis de la Terre, il y avait une entreprise qui avait mis sans nano dans ses produits, dans son site. Et elle avait été demandée d'enlever, parce que les autres entreprises ne voulaient pas qu'elle mette sans nano, en fait. Et pourtant, les autorités leur avait demandé en fait d'enlever cette mention. Donc il y a vraiment des problématiques au niveau de droit de la consommation, parce que le consommateur ne sait pas ce qu'il est en train de consommer. Il faut le lire, mais il faut d'abord que ça soit écrit, en fait. Voilà. Outre cela, on a plusieurs types de règles, en fait. Il y a les traités internationaux, il y a des règles dures, comme on dit, on parle des sciences dures, on dit aussi des normes, qui sont elles aussi coercitives. Donc, elles sont obligatoires. Donc, c'est le cas des traités, des lois, des décrets. Mais il y en a aussi d'autres instruments qui, eux, ils sont souples, ils sont mous, c'est de droit mou, ils ne sont pas exigibles. C'est volontaire, en fait, son application. Donc, il y a tout un tas de règles qui sont applicables aujourd'hui par rapport aux nanotechnologies. Et là, quand on parle des droits, en fait, la première chose qu'il faut voir, c'est de quoi parle-t-on? Quand il faut réguler, il faut savoir ce qu'on régule. Comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre les nanos. Ça n'existe pas. Donc, on a, même au niveau scientifique, au niveau politique, on n'a pas une définition précise ou arrêtée des nanotechnologies. Et il y en a une multitude de terminologies. Donc, je commence en fait par vous montrer en fait que les nanos, ils sont plusieurs choses. On parle de la nanotechnologie, c'est plutôt le choix qu'avaient adopté en fait les États-Unis et l'OCDE. On a les nanotechnologies, après la note de cadrage de débat de la CNDP, justement sur le débat public qui a eu lieu, la Commission européenne, l'ISO, on utilise les nanotechnologies, la nanoscience et la nanotechnologie. Pourquoi c'est important cette distinction? Parce que là, on sépare les sciences, la recherche et le marché. Donc, nanoscience et nanotechnologie. Ça, c'est plutôt au niveau européen. Les nanosystèmes, donc ça, ils ont parlé, quand on va faire donner un financement, donc la feuille des routes de la Nanotechnology National Initiative, cette association américaine qui a été présentée tout à l'heure, et le programme de l'ANR, on parle des nanosystèmes. Voilà, donc on change déjà. Les nano-objets, en fait, recommandations pour le code de bonne conduite. Et qu'est-ce qu'un nano-objet? Donc, il définit nano-objet. Les nanoparticules, dont on vient de parler, parce que les dimensions, les trois dimensions sont à l'état, en fait, nanométrique. Donc, on parle de fullerén, donc c'est une bouboule. Donc, il est complètement nanométrique, en fait. Donc, c'est une nanoparticule. Les nanomatériaux, c'est déjà, quand on parle là des risques sanitaires, on va parler plutôt des nanomatériaux, parce que aussi c'est dans ce domaine qu'on aura plus des risques. Les nanomatériaux manufacturés, donc on augmente d'un cran, parce qu'on peut avoir des nanomatériaux qui sont dans l'atmosphère, même si on parle des nanoparticules comme étant naturels, les nanomatériaux, mais on a des nanomatériaux qui peuvent être retrouvés, en fait, et qui n'ont pas été manufacturés. Donc, les nanomatériaux manufacturés et les substances finalement à l'état nanoparticulaire, qui est le terme choisi par la France, parce que la France, elle est différente. Hein. Donc la France a choisi d'adopter un terme qui diffère du terme adopté au niveau de l'Union européenne. Donc ce n'est plus nanomatériaux ici, c'est substance à l'état nanoparticulaire. Voilà. Et ça, c'est de la loi de Grenelle de 2009, non, Grenelle 1, et 2010, Grenelle 2, et du décret qui est de l'année dernière. Voilà. Donc, nous avons tout un tas, en fait, des définitions. Je ne vais pas m'attarder parce que je n'ai pas, en fait, non plus trop de temps pour parler sur cette question. Mais, et pour lire, en fait, vous allez avoir peut-être le document, enfin, vous allez avoir l'enregistrement. Tous les textes, ils changent. Il y a ça a changé au cours du temps. Et on ne sait plus de quoi on parle, finalement. Donc, échelle métrique et propriété nouvelle. Échelle métrique et propriété différente. Nanomatériaux et nanoproduits. Absence de définition complète dans le plan d'action de l'Europe. Donc, il n'y a pas de définition. Après, proposition des règlements concernant les nouveaux aliments. Donc, nouveaux procédés de production et d'aliments. On parle des nanotechnologies et nanosciences. Voilà, donc il y a une évolution qui est faite, en fait, nanomatériaux, matériaux nanostructurés, justement, c'est différent des nanomatériaux, donc c'est jusqu'à la demande qui a été faite par le Parlement européen à la Commission qu'elle définisse, parce qu'il y en avait un peu un flou artistique vis-à-vis de ces termes-là. Donc, il y a eu une demande de définition. Et le terme retenu par l'Europe, par l'Union européenne, c'était les nanomatériaux. Donc, voilà. On a eu plusieurs règlements, en fait, spécifiques qui ont adopté des définitions ou la terminologie sans les définir. Pour arriver, en fait, donc on voit qu'en Europe, pour arriver en Europe à la définition définitive entre guillemets, parce qu'elle prévoit déjà une révision, tellement c'est complexe, qui a été adoptée en 2011, octobre 2011. Au niveau français, c'est pareil, en fait. On a défini le terme, que c'est les substances à l'état nanoparticulaire, mais on n'a pas défini. Donc, en 2009, Et là, je vous fais un petit historique. Il n'y en a pas là, mais si vous voulez, en fait, je vous fais à l'oral l'historique. On a eu en France la charte de l'environnement qui a été adoptée, en fait, inscrite en 2005, en fait, dans la Constitution. Donc, cette charte de l'environnement, elle parle de principes d'information, principes de participation du public. C'est une charte des principes, hein, mais elle a valeur constitutionnelle. Et elle doit guider tout le système juridique français par ailleurs, parce que la Constitution est le plus grand instrument juridique et tout découle de la Constitution. Tout doit être en cohérence avec la Constitution, en conformité avec la Constitution. Donc, on a eu la charte qui a adopté ces principes et parmi ces principes, elle avait le principe des préventions. La prévention, on connaît le risque. Et le principe des précautions, que c'est le risque incertain, en fait. Quand on n'a pas certitude du risque, on n'a pas des connaissances scientifiques suffisantes, ben, on ne connaît pas le risque. C'est le cas des OGM qu'on a beaucoup parlé et des nanos maintenant. Ben, on parle des précautions. Voilà, ça, ça a été en 2005. En 2007, le gouvernement a lancé un débat, en fait, le Grenelle de l'environnement. Donc, c'était une négociation pour, entre plusieurs parties prenantes pour mettre en place, en fait, ces principes-là. Donc, le Grenelle de l'environnement, ça a fini avec presque 300, avec 280 et quelques engagements sur l'environnement. Voilà. Ça peut être contestable par rapport à la gouvernance, mais c'est le fruit de cette négociation. Ça a été en 2007. En 2009, le gouvernement français, il prend des décisions en fait, par rapport à la prévention des risques pour l'environnement et la santé, prévention des déchets. Donc, on a un environnement et la santé, un article sur les substances à l'état nanoparticulaire. Donc là, on commence par la première fois en France la régulation dure des nanos. Sauf que cette loi de 2009, c'est une loi de programmation. Comme un droit, rien n'est simple. Elle est comme une loi cadre. Elle donne aussi des principes. Donc elle va, pour être appliquée, il faut des lois spécifiques, en fait, de quoi il s'agit. Donc là, c'est un engagement, en fait, qu'il prend. Il lance, la France encouragera pardon, au plan européen une rénovation de l'entreprise de l'évaluation des technologies émergentes, voilà. Notamment en matière des nanotechnologies et des biotechnologies. Et donc, l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire, donc là on est dans la définition, ou des matériaux contenant des nanoparticules, fera objet d'un débat public organisé sur le plan national avant la fin 2009. Effectivement, ça a été fait. On a vu qu'il y a eu un débat qui a été organisé 2009-2010. L'État se donne pour objectif que... C'est important ça parce qu'on voit comme ça change. On a l'objectif ici et quand on va voir à la fin, on n'est pas forcément dans ce cadre-là, en fait. L'objectif était trop ambitieux, en fait. C'était trop beau pour être vrai, disons. Donc... L'État se donne pour objectif que dans un délai de 2 ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des substances à l'état nanoparticulier ou les matériaux destinés à régler de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles fassent objet d'une déclaration obligatoire. Voilà. Donc ça, on rentre dans l'intérêt. Hein? Relative notamment à la quantité, aux usages, à l'autorité administrative. Donc, il doit informer à l'autorité administrative. On ne sait pas quelle autorité. Il ne parle pas, il ne dit pas. Relative notamment aux quantités et aux usages. Voilà. Ainsi qu'une formation du public et des consommateurs. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif. Pourquoi ? Parce que si on a une traçabilité, une déclaration, les consommateurs peuvent être informés aussi. Parce que toutes ces informations seraient disponibles au public. Donc, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, l'État veillera à ce que l'information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection. Ça, c'était en 2009. Là, on a 2010, donc la loi qui va vraiment mettre en place cette déclaration, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous le dis, ils n'ont pas défini substances à l'état nanoparticulaire. Ils n'ont rien dit. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. Même endroit. On ne sait pas. Et là, et il faut le dire aussi qu'au niveau européen, il y en avait un processus de législation en France et il y avait un processus aussi au niveau européen qui était en cours pour la définition en fait des nanomatériaux en Europe et en France, substance à l'état nanoparticulaire. Mais le gouvernement s'est retrouvé en fait entre, enfin, à attendre parce qu'il ne pouvait pas avancer trop. Il voulait être un exemple pour les autres pays, pour l'Europe, comme ça a été dit au début. Mais d'un autre côté, il ne voulait pas non plus avancer trop sans qu'il y ait la définition au niveau européen. Parce qu'il ne serait, il serait peut-être pas cohérent, en fait. Donc, il a attendu. Là, il n'y a pas de définition non plus dans cette loi. Donc, elle définit que les personnes, qui est-ce qui va déclarer ? Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent les substances. On ne sait pas qui sont ces personnes-là, ce n'est pas défini non plus dans la loi. Donc, il y a ce qui doit être déclaré. Déclare périodiquement à l'autorité administrative dans un objectif de traçabilité et information du public. On ne parle plus de travailleurs ici. Ils sont disparus, en fait. Et les consommateurs, ils sont rentrés dans information de public. Il n'y a pas de consommateurs non plus. Donc, il y en a information de public. Donc, on ne parle plus que d'une chose. Donc, on voit que ça réduit. En fait, ça s'affunile. Donc, il y en a... Le bilan intermédiaire de tout ça, c'est qu'au niveau international, les États, ils ont opté par rapport à la terminologie nanosciences, nanotechnologie. Ils utilisent là où les nanotechnologies, ils ont décidé de ne pas les définir. Ils utilisent, c'est un mot valise, donc ils incorporent absolument tout là-dedans. Mais ça ne pose pas nécessairement des problèmes, parce que c'est une question des politiques publiques. Mais aujourd'hui, on voit des efforts au niveau européen qui tendent à définir les nanomatériaux. Hein. Donc, la définition se base là-dessus. Surtout quand on parle de quoi ? De la gestion des risques. C'est là pour l'environnement et pour la santé. Donc, la question des risques sanitaires. Et là, on a eu plusieurs efforts qui ont été déployés pour le définir. Les nanomatériaux. Donc, on a eu trois exemples, en fait. Donc, c'est trois évolutions différentes. On a eu l'OCDE. Ça a été cité aussi tout à l'heure. Donc, elle parle elle définit, en fait, quels sont les nanomatériaux qui ont été choisis. Donc là, les fullerènes, les nanotubes de carbone, etc., qui sont monoparois, multiparois. Et elle a défini aussi les nanomatériaux par des caractérisations physico-chimiques. Donc il y en a l'agglomération, la solubilité dans l'eau, sa phase cristalline, sa phase poudreuse, sa taille. Pour un juriste ou pour une loi, c'est absolument impensable. Vous imaginez bien d'utiliser cette définition, en fait. Donc, mais ça a été l'effort qui a été fait. Après, au niveau européen, on voit dans des règlements précis, donc sur les nouveaux aliments, la régulation des nouveaux aliments qui rentrent dans le marché, il y en a le terme nanomatériaux fabriqués, en fait, qui a été utilisé. Hein. Et après, le règlement sur les produits cosmétiques parle des nanomatériaux. Donc, et ils ne disent pas la même chose. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne disent pas la même chose, mais ils n'utilisent pas une définition définie ou unifiée. C'est pour ça que le Parlement européen, en fait, a saisi la Commission européenne pour qu'elle adopte, en fait, une définition unique, unifiée. Donc, en 2010, il y a une ouverture de la consultation, en fait, comme en France. Ça a duré, en fait, jusqu'à 2011. Et à octobre 2011, on a eu cette recommandation. Il faut savoir qu'en France, la loi, en fait, la loi Grenelle 1 date de 2009, loi Grenelle 2 de 2010, donc pour l'adoption de décrets d'application, parce qu'il compte tout, il faut un décret d'application pour appliquer cette loi, en donnant des précisions, qui est le fabricant, comment est-ce qu'on va faire, à qui est-ce qu'on doit déclarer. Donc tout ça dépendait d'un décret d'application. Et ces décrets d'application, entre 2010 et 2011, on n'avait pas une définition européenne. Mais on a eu quand même un débat public qui a eu lieu, enfin une enquête par rapport à ce texte. Il y en a eu au moins deux versions, je crois qu'une troisième version de décret d'application en France. Moi, j'avais parlé de la deuxième version. C'était vraiment une folie parce que ça changeait à chaque moment. Il y avait des réunions du public. On s'élassait finalement. Et à la fin, ça a été adopté en 2012. Hein. Mais ça a attendu la Commission européenne. Et donc là, on parle, on entend et on définit dans nos matériaux. Hein. Qu'est-ce qu'un nanomatériau pour eux? C'est un matériau naturel formé accidentellement ou manufacturé, donc il y a les deux cas, contenant des particules libres sous forme d'agrégats ou sous forme d'agglomérats, dont au moins 50%, ça c'est important, hein, 50% de particules dont la répartition numérique par taille représente une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Ça veut dire que 50% des particules doivent être dans cette taille-là pour être considéré comme un matériau. Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la sécurité ou à la compétitivité, le seuil des 50%, parce qu'un droit, on doit toujours avoir un seuil quand on parle, définir pour pouvoir savoir jusqu'où est-ce que c'est exigible, c'est permissible ou pas. Et on dépend des scientifiques. Et des fois, ce n'est pas nécessairement scientifique le choix fait. Des fois, c'est un lobbying qui est fait, aussi bien des associations que des industriels, et on finit par avoir un résultat qui n'est pas vraiment définitif. Et c'est pour ça que la définition, vous allez voir à la fin, sera réexaminée en décembre 2014. Donc, c'est déjà prévu, en fait, à lumière de l'expérience des évolutions scientifiques et techniques par rapport aux risques toxicologiques, par rapport aussi à sa connaissance, enfin des propriétés, etc. Voilà. Donc, au niveau européen, ça a été défini en 2011. Au niveau français, en fait, on a eu cette recherche aussi des définitions. Donc, cette recherche était dans le décret d'application. Il a été, comme je vous ai dit, il y a eu trois versions. Ça, c'est une des versions. Hein. Elle était cette définition. En bas, vous avez l'astérix. Cette définition est basée sur le projet de recommandation de la Commission européenne dans sa version 2010. Donc, c'était vraiment une réglementation croisée. Et finalement, on arrive à la définition, à la version actuelle des substances à l'état nanoparticulaire. Même si elle n'utilise pas le terme nanomatériaux, qui est le terme européen, elle se réfère combien même aux définitions européennes. Donc là, elle se réfère à la REACH. Donc je ne sais pas si vous connaissez REACH. Donc c'est un règlement sur les substances chimiques dangereuses. Et ce règlement européen, il établit une obligation des déclarations pour qu'ils commercialisent, utilisent ces substances dangereuses. Il y a un annexe avec toutes ces substances, etc. Il faut qu'ils déclarent. Donc c'est une obligation de déclaration au niveau européen. Sauf que REACH, est-ce qu'il est applicable aux nano? C'est une question. Oui et non. Oui, il est potentiellement applicable. Parce que quand on parle des substances chimiques, en fait, le zinc, quand on parle de dioxyde de titane, quand on parle d'argent, d'or ou de carbone, on parle des substances chimiques. Et c'est déjà prévu au sein de REACH, en fait, les substances dangereuses. Par contre, les nanos sont des substances chimiques, pareil, sauf qu'un état nanométrique, enfin, en taille nanométrique. Et à cette taille-là, elle a des propriétés différentes. Donc, on ne connaît pas vraiment le risque de chacune de ces substances. Donc là, il faudrait déjà avoir un travail là-dessus pour pouvoir peut-être actualiser l'annexe des REACH. Mais ce n'est pas que ça le problème. C'est que REACH, il définit que l'obligation existe des déclarations quand on produit plus d'une tonne. Sauf qu'une tonne des nanos, vous imaginez un peu ça? Donc c'est pas possible. Enfin, personne ne va rentrer dans ce cadre-là. Donc il faut une révision. La révision avait débuté. Donc jusqu'à à début d'année, en fait, ils avaient décidé que ce ne serait pas révisé. Mais enfin, il y a une révision en cours par rapport à l'adéquation de REACH aux nanos. Matériaux. Voilà. Donc là, en France, on a utilisé la définition des substances, pas des substances à l'état d'un particulier, hein, des substances de REACH, et elle a défini en fait les substances à l'état d'un particulier comme étant des substances fabriquées intentionnellement. Donc c'est qu'intentionnellement, celles qui ont été Naturellement, non. À l'échelle nanométrique, et sa caractérisation par une ou plusieurs dimensions comprises entre 1 et 100 nanomètres au agrégat et agglomérat d'une telle substance. Voilà. Donc, la définition au niveau français. Mais est-ce que c'est important pour le droit, cette définition ? Oui ou non ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Hein ? Une vache ? Et voilà, c'est une vache violette. N'est-ce pas ? Voilà. Mais est-ce que pour le droit, qu'est-ce qu'est en fait cette vache violette pour le droit ? C'est une chose, c'est pas une personne, c'est une chose. C'est un bien immeuble. Donc c'est un bien, il peut être approprié. Et différemment des immeubles, c'est un bien meuble. Mais c'est aussi un immeuble par destination. Ça veut dire que quand elle est dans un cœur de ferme, elle peut être intégrée dans l'immeuble, en fait. Donc quand on achète, c'est un immeuble par destination, parce que certains biens meubles peuvent être définis comme des biens immeubles. Immeuble par destination. Immeuble amortissable. Quand on vend le cœur de ferme, on peut amortir au niveau du fisc. C'est une œuvre de l'esprit, parce que la personne qui a peint la vache, c'est un peintre, donc c'est l'œuvre de l'esprit. Et aussi, si on voit la photo, c'est aussi une œuvre de l'esprit. Mais c'est aussi, c'est quoi ? C'est une marque commerciale, parce qu'on pense au chocolat Mika, et à cette heure-ci, c'est même malheureux de penser à ça. Voilà. Donc, pour le droit, peu importe si c'est une vache violette, elle peut être encadrée dans toutes ces catégories juridiques, en fait. Donc, les nanotubes de carbone, on arrive à lui. Il est aussi une chose. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. Il est une invention. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans le département des recherches et développement pour les brevets. C'est une substance chimique. C'était une industrie chimique. C'est une substance chimique, le carbone. Particules atmosphériques très fines. C'est un ingrédient. On peut être utilisé dans plusieurs matériaux, en fait. Ça peut être un médicament, il peut, dans sa paroi, il peut avoir des médicaments, enfin des substances qui vont être ciblées, on va cibler les cellules cancérigènes, cancéreuses, je ne sais pas, merci. Et c'est un déchet aussi, c'est une nanotechnologie, un fruit de la nanotechnologie, c'est un nanomatériau, c'est une substance à l'état nanoparticulaire, nanomatériaux en Europe, substances à l'état nanoparticulaire en France. Donc, on voit qu'au niveau juridique, et c'est un nanotube de carbone monoparoi. Donc, on voit qu'au niveau juridique, ce n'est pas nécessairement essentiel de définir, en fait, les choses telles qu'elles sont. On n'a pas la définition d'une vache. Quatre pattes, poil ras, blanche, enfin bon. On n'a pas nécessairement... Donc, les choix des circonstances, en fait, de la problématique... aux nanomatériaux. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, par contre, de définir les nanomatériaux et de circonscrire, en fait, cette problématique là-dedans ? On a fait ce choix par la recommandation de la Commission européenne et aussi au niveau de la DOA Grenelle, dans le décret d'application. C'est un choix qui a été fait, un choix politique de définition. On a vu qu'on n'était pas nécessairement obligé de définir, mais on l'a fait. Mais c'est un exercice aussi périlleux. Pourquoi ? Parce que pire que n'est pas définir, c'est définir mal. Et il y a eu une... politiquement, on a choisi, en fait, parce que vous avez eu toute l'évolution. Au début, on parlait de nanosciences, nanotechnologie. On a sectorisé, en fait, les domaines d'application et des régulations. Qui est-ce qui régule quoi ? Au niveau juridique, au niveau politique, au niveau souple, au niveau coercitif. On a séparé en trois domaines la nanotechnologie. On a séparé une deuxième fois les nanosciences et les nanotechnologies, ça veut dire ce qui relève de la recherche, ce qui relève du marché. Et on est arrivé aux nanomatériaux. Donc on a circonscrit la réglementation des nanos aux nanomatériaux et aux substances à l'état nanoparticulaire. Ça en Europe et en France. Ça a été défini déjà par, enfin, ça a été déjà présenté par certains scientifiques comme Sheila Jazanov sur le danger de faire ces genres de sectorisation et des réductions, en fait, ces choix des régulations. Parce qu'on a parlé des RFID. C'est des puces qu'on peut introduire dans les personnes. Hein. Il y a eu dans des boîtes, c'était en Espagne, où on avait la puce, donc c'était un client VIP, donc le compte passait directement en fait dans la puce. Pouf. Donc on peut utiliser pour les chiens. Mon chien, il a une petite puce, enfin une puce. Il y en a aussi le cas des vêtements. Donc on va dans un supermarché, on achète des vêtements ou des montres qui ont des petites, cet identifiant-là, ben, il y en a un problème, ce n'est pas un nanomatériau, et ça rentre dans le cadre des nanoélectroniques. Et c'est à part, ça n'a pas été régulé. Donc il y a tout un pan de l'application des nanotechnologies qui a été exclu, en fait, de la régulation, ou des yeux de l'État, du choix de l'État. Et finalement, en fait, est-ce que... ce débat, en fait, même si on décide de définir au niveau scientifique, il n'y en a pas. En fait, ce n'est pas aisé, ce n'est pas vraiment arrêter une définition. Et ils ne sont pas forcément d'accord, les scientifiques. On a d'un côté l'Américain qui dit non, il ne faut pas définir parce qu'on ne connaît pas assez. Il y a l'Européen, c'était à Nature le combat, qui dit qu'il faut en fait définir les nanomatériaux justement parce qu'il y a un risque. Et on se retrouve dans cette situation qu'on a aujourd'hui, où on a défini. Mais cette définition, à quel but? Je vous ai dit en fait que le décret, la loi, elle parlait des traçabilités, d'information du public. Elle parle, la première loi Grenelle, information du public, information des consommateurs, information des travailleurs. Aujourd'hui, on n'en a que de public. Et pour parler en fait des réglementations, donc je vous ai déjà dit qu'au niveau européen, il n'y en a pas un cadre général. Donc REACH est en révision et on ne sait pas s'il va être ou pas adapté. Mais en tout cas, il n'est pas dans la pratique utilisé parce qu'on n'a pas une tonne de nanomatériaux produits. Mais quel est le but en fait? Donc le but, c'est la traçabilité et l'information de tous ces tas de personnes. Sauf qu'on a vu que de l'objectif général merveilleux, on a fini par avoir une restriction aujourd'hui qui est l'information du public et de la déclaration. Et là, je vais parler un peu oralement sur la déclaration qui a été établie en fait par la loi Grenelle 1, 2 et par le décret d'application dès 2012 et par l'arrêté dès août 2012 aussi et qui entre en vigueur maintenant. Cette déclaration, qui est-ce qui est concerné par cette déclaration? Donc, c'est les fabricants, c'est les distributeurs et c'est les importateurs. Sauf que les distributeurs, ils définissent, enfin, les fabricants, il faut que ça soit dans le cadre de leur activité professionnelle et il faut que ça soit manufacturé. Donc, il faut vraiment qu'ils veuillent fabriquer les nanotubes, par exemple, les nanomatériaux, enfin, les substances à l'état nanoparticulaire. Il faut qu'ils veuillent. Deuxièmement, les distributeurs, ils parlent qu'en fait, il faut qu'ils cumulent les deux fonctions, des stockages et des cessions. Donc, il faut qu'ils prennent et qu'ils rendent à une autre personne, s'il est distributeur. Et si on décide de stocker et que ce n'est pas dans le cadre de son activité professionnelle et on externalise, en fait, la distribution, donc on embauche simplement une entreprise pour stocker. Il ne va pas faire la cession. Ça va être un autre qui va faire la cession. Donc, à ce moment-là, on peut perdre la traçabilité du produit. Mais ça, d'accord, disons qu'il a été distribué, il a été incorporé, par exemple, dans un produit. Sauf que le destinateur final, qui c'est l'utilisateur professionnel, il faut que ça ce soit dans le cadre de ses activités pour qu'il soit déclaré. Ça veut dire que quand je cède à quelqu'un, il faut que je définisse... Il faut que cette personne que je déclare, à qui j'ai cédé, il faut que ça soit un utilisateur professionnel, il faut que ça soit dans le cadre de sa profession. Ça veut dire que si on a une bouteille, donc on donne des nanotubes de carbone, enfin je parle des nanotubes, mais pour construire une bouteille en plastique. Je ne crois pas que ça soit le nanotube, c'est une autre substance, mais enfin bon, je ne suis pas assez compétente en la matière pour le dire. Mais disons que c'est le nanotube. Donc il l'incorpore dans la pâte, parce que c'est un tout petit peu hein, qu'ils mettent de nanotubes pour pouvoir faire un plastique plus résistant. Donc, ils font ça. Des fois, c'est des sprays. Enfin, ils font ça à la, la bouteille. Après, on sait qui est cette personne qui produit des emballages à la bouteille. Sauf qu'il va vendre cette bouteille. Il l'a déjà incorporé. Ça peut s'arrêter là, la traçabilité. Et après, il va incorporer des dizaines de produits différents, de plusieurs entreprises différentes, qui vont être rendus dans, dans la grande distribution. Et là, la traçabilité, elle est loin. Aussi bien pour l'autorité, en fait, mais pour le public, encore pire. Pourquoi ? Parce que les informations qui ont été rendues, en fait, publiques, c'est, on peut, les fabricants, les destinateurs, les distributeurs et les importateurs, donc on va avoir toutes ces informations, ça sera disponible, sauf que l'utilisateur, c'est la personne qui va utiliser ça, ça, c'est maintenu en secret pour le public. L'autorité compétente va le savoir, mais pas le public, pas les consommateurs. Donc déjà que la traçabilité, elle est relative, les consommateurs, eux, ils sont loin de leur compte, en fait. Même parce qu'on ne parle pas d'étiquetage ici. Même pas. Donc, on va se retrouver avec plusieurs produits sur le marché, comme on se retrouve aujourd'hui, même avec la déclaration que la traçabilité ne sera pas maintenue jusqu'au à la fin de la chaîne, en fait. Voilà. C'est là où du cycle de vie du produit, que c'est le déchet. On ne saura pas, nécessairement. Donc, elle est intéressante parce que les autorités sauront qui produit et dans quelle branche d'activité. Mais si ça tient, en fait, si c'est soumis à un brevet, ben ça va être maintenu en silence, en fait, sous protection. Donc, les consommateurs ne vont pas savoir. Et ça peut être utilisé le secret défense aussi, comme c'est le cas des nucléaires. Le nucléaire, on a plusieurs informations. Par contre, tout est protégé par le secret défense, pareil. Donc, c'est une avancée, certes, mais assez relative. Donc, on a décidé de définir. On a fait tout cet imbroglio depuis 2009 pour arriver à une réglementation qui est restrictive parce qu'on ne traite que des nanomatériaux en laissant tous les autres champs ouverts. Et en plus, ce n'est pas, enfin, j'ose dire pas efficace, mais qui pour l'information du public, ça laisse à désirer et peut-être même pour la traçabilité. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, la difficulté de la complexité, enfin, de réguler ces domaines complexes. L'importance aussi de connaître de quoi on parle et des fois le côté superflu et de son application. Des fois, le but politique ou l'envie politique, elle n'arrive pas au but, à sa fin, en fait, parce que avec tout ce qu'on a vu, en fait, sur les débats qui ont eu lieu, le résultat, il n'est pas nécessairement celui qu'on s'attend. Voilà. Merci.
Ah oui, là, on rentre dans la complexité. On n'a pas fini. Hein. Donc, y a-t-il des juristes dans la salle ? Non, c'est pas grave. C'était une...
Donc, bonjour. Déjà, merci. C'était très complet. Alors, j'ai une question sûrement bête, mais on va faire avec. Là, si on fait le lien avec votre présentation, la présentation précédente, on voit qu'il y a un laps de temps, on va dire à peu près entre 10 et 15 ans pour que le droit commence à réfléchir sur les nanos. Et je voulais savoir si ce laps de temps-là était... est-ce que c'est toujours le cas quand il y a l'émergence d'une nouvelle technologie ? Est-ce qu'il y a toujours entre 10 et 15 ans pour que le droit commence à réfléchir dessus ? Et est-ce que dans le cas des nanos, est-ce que ce laps de temps d'une quinzaine d'années est propre à la France ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à réfléchir plus tôt ou si la France est un peu en avance ?
Par rapport... Il n'y a pas de question bête, hein, jamais. Surtout par rapport au droit, jamais, jamais, jamais. Mais par rapport au laps de temps, par rapport aux biotechnologies, c'était pareil, en fait. Entre le moment où on se rend... Parce qu'en fait... On décide de réguler, en fait, soit parce que les autorités publiques, par une crainte d'une catastrophe sanitaire, elles décident, en fait, de prendre ça en compte, soit parce que le public, il incite, en fait, à l'adoption de cette loi. Donc ça, c'était un peu le double cas. Les biotechnologies, c'était toute une évolution, en fait, législative. Ça a pris beaucoup de temps pour que ça soit mis en œuvre. Les nanos, pareil. On réfléchit peut-être depuis longtemps, même au niveau de la doctrine, hein, mais le niveau normatif, pour arriver jusqu'à un consensus sur une loi, C'est très difficile parce qu'il y a, comme je vous ai dit, toutes ces parties prenantes. C'est pour ça, en fait, que les technologies émergentes, elles suscitent autant de passion, mais des temps de réflexion. Parce que comme elles sont émergentes, on n'a pas non plus l'avancée scientifique nécessaire, la maturité scientifique, pour dire du risque au pain de ces substances. Voilà. La France n'est pas... la France est même en avance, en fait, par rapport à la déclaration, même en avance de l'Europe. Et je crois que c'était intentionnel même.
Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il existe, je ne sais pas, peut-être au sein du CNRS ou d'autres organismes, des cellules de veille où scientifiques et juristes se réunissent pour dire, ben voilà, en ce moment, il y a des avancées technologiques là-dessus, on peut prévoir que dans 4 ou 5 ans, ça va commencer à arriver sur le marché, ou pour réfléchir avec les juristes pour commencer à... En fait, à prendre les choses un peu plus en amont pour... je ne sais pas, peut-être que ça existe ou pas.
Ce qu'il y a, en fait, c'est le CNRS. Il ouvre, en fait, des postes pour des chargés de recherche. C'était le cas de Stéphanie Lacour, par exemple. Elle avait fini son doctorat sur les droits de propriété intellectuelle. Et là, elle avait postulé, en fait, avec le projet sur les nanos, le droit des nanos. Et quand elle a fait ce projet, elle avait proposé de travailler avec des instituts de recherche scientifique. Donc voilà. Donc il y a des mariages qui se font. Il y a bien sûr un passage, en fait. Mais voilà. Non, je crois qu'il y a. Non, je peux dire qu'il y a, surtout au niveau du CNRS.
Pas seulement au niveau du CNRS, parce qu'on aura tout à l'heure un représentant de l'association Vivagora.
Oui, Vivagora, c'était...
Que vous avez mentionné tout à l'heure dans les parties prenantes. Oui. Donc, Vivagora, une association qui justement fait de la veille concernant
tous les
problèmes.
C'était pour eux, en fait, la présentation dans le Nono Forum, c'était eux qui avaient organisé.
Voilà,
en
c'est
fait.
Ça. Ouais. Donc, il y a des associations qui font des veilles.
Non, des veilles, oui. Mais le lien entre le scientifique, oui. En fait, dans une institution comme le CNRS, ça, il y en a aussi. Mais les associations, la société civile, elle est la plus, en fait, active. Enfin... Dans ce cadre, parce qu'il y a des intérêts en jeu qu'elle accompagne. Et ça suit, comme c'est le cas des nanos, maintenant c'est le gaz de schiste. Enfin, il y en a des problématiques qui surgissent. Enfin, oui.
Il faut dire aussi qu'il y a eu de l'argent de l'ANR pour les nanos. Quand on mettait nanos sur des dossiers, on obtenait de l'argent.
Ouais.
Tout le monde le sait.
L'ANR,
si c'est pour la bonne cause, c'est bien.
Il y a le livre blanc aussi qu'on peut proposer. Mais c'est...
Donc bonjour et merci pour votre présentation. Moi, l'impression que j'ai là suite à cette présentation, c'est que d'une part, de par la complexité du système juridique, la complexité des nanotechnologies, de la nanoscience, mais aussi le retard d'études sanitaires et même le lobbying, on n'est pas prêt d'avoir une vraie information du consommateur sur la présence de nanosubstances dans les produits. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'années que ça prendra avant d'avoir quelque chose de très fiable en termes d'information du consommateur?
J'ai aucune idée, en fait, du nombre d'années. Je sais que ça, d'une certaine façon, ça a été écarté au moment de la décision pour la déclaration, en fait. On aurait pu parler, et c'était question de parler d'étiquetage à ce moment-là, mais on a décidé de ne pas le faire. Même parce qu'il faut définir qu'est-ce qu'on va étiqueter. On va étiqueter l'emballage, le produit qui est dans l'emballage, donc c'est particulier, mais enfin bon. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça se fera, en fait. Peut-être au niveau européen.
C'est aussi l'intérêt de ces journées, puisque, comme l'avait dit M. Dorido, lors du débat public, le public n'était pas là. Et aussi, il y a eu un problème lors de ce débat, c'est que les journalistes, d'ailleurs, Étienne Klein en parlait encore l'autre jour, les journalistes n'ont pas pris le relais du tout. Donc, de par la complexité aussi du sujet. Moi, j'ai rencontré une journaliste de la recherche qui s'intéresse justement aux biologies, aux biotechnologies. Elle a fait un petit article, Cécile Klinger, et elle parlait de la complexité du sujet. C'est-à-dire qu'il ne savait pas comment aborder le sujet vu sa complexité.
Oui.
Voilà. Bon, les gens du fond, là, vous n'avez pas de questions? Parce que comme vous bavardez, peut-être qu'on peut vous interpeller pour... Non? Sinon, bon, peut-être que vous avez faim, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci.
Donc, vous pouvez laisser vos affaires dans la salle. Il y a des livres à consulter derrière. C'est simplement des livres qui sont dans mon bureau que j'ai acquis pour les journées. Par contre, si vous voulez des bibliographies, vous trouverez tout sur Internet. Il y a pléthore et il faut prendre des choses un petit peu compréhensives aussi. Merci, à tout à l'heure. Bon appétit.